lights out. And away we go for one more time in 2012. Great start from Hamilton. What a start from Vettel. Ready ahead to Red Bull. Fernando Alonso goes around the outside of Sebastian Vettel. Has already lost places, getting caught in the meltdown on the inside. Hamilton squirms away. Compassion of Jensen by Corner Esther. Challenging Sebastian Vettel now as we find a fourth down the rest of Potter towards the speed of the line. It was a cautious start for the championship unit.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, comme vous savez, entre les Grands Prix, eh bien, on va revenir sur toute l'actualité de la Formule 1. Ce soir, je suis triste. Oui, je suis triste. J'aimerais vous dire que je ne suis pas seul. Enfin, que je suis seul. Enfin, je ne sais pas, je suis troublé, j'ai de...
Non mais bonne nuit les petits, c'était avant, c'est plutôt normalement.
Elle va être très difficile cette émission, je le sens.
Eh oui.
C'est dur, c'est trop dur.
Ce soir,
c'est tellement frais.
Dino n'est pas là.
Ouais, ouais.
Et non, ce n'est pas un poisson d'avril.
Cette semaine, vous aurez un SAV de 35 minutes. Ouais. Oui, il n'est pas là, alors on a plusieurs hypothèses. Peut-être a-t-il préféré le match de foot. Peut-être a-t-il des liens avec Jérôme Cahuzac et il veut se faire discret ce soir. Qui sait? Mais rassurez-vous...
Ou il déménage en Belgique.
Aussi, c'est possible.
Voilà, va savoir, on sait pas.
Ou en Russie, sait-on jamais.
Mais rassurez-vous, d'une part, c'est lui qui monte. Non, parce que c'est quand même rassurant pour tout le monde, je pense, hein, pour
lui,
hein. Et il sera là la semaine prochaine.
Je voulais rassurer.
Et donc, on est quand même quatre, puisque vous les avez entendus. Nous avons autour de la table qui n'existe pas, mais on va dire que c'est autour de la table. Nous avons Ben.
Voilà, bonsoir.
Nous avons Gus Gus.
Bonsoir.
Et nous avons Elder.
Bonsoir.
C'est bon, Elder, ton gamin est couché cette semaine.
Oui.
Eh oui, non, il faut le dire, parce que hein, ça, ça a quand même été la star la dernière fois. Cette semaine, vous, peut-être d'ailleurs, vous serez plus attristé par le fait qu'il n'y a pas le fils d'Elder plutôt que pas Dino. Mais bon, hein.
Enfin, rien ne dit qu'il ne viendra pas faire un petit coucou avant d'aller se coucher après son bain.
Ah, ah.
Restez la... avec nous, alors.
Mais est-ce que Madame Elder viendra dire tout le bien qu'elle pense de Vettel aussi
Ah, je ne sais pas. Elle a été très intimidée d'apprendre qu'elle n'a pas été coupée au montage lors de, la, de sa dernière apparition. Je ne sais pas si elle va faire semblant d'esquiver les 35 minutes d'enregistrement.
Et messieurs, même si Dino n'est pas là, le conducteur de l'émission ne change pas. Et vous le savez, quand c'est le mag, on commence par le quiz.
Le service après-vente de la F1 vous présente... Le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Alors messieurs, cette semaine, qui a pensé à trouver, à proposer une question pour le quiz?
Oui, j'ai une question, mais elle est pourrie. Si Ben en a une, je vais lui laisser faire, parce que...
Non.
Non.
Eh bien oui, cette semaine, on aura une question pourrie.
J'ai toutes mes chances, alors.
Et là,
alors.
Dino, il nous écoute et dit, mais putain, pourquoi je suis pas là ce soir? Eh ben, Gus Gus, hein, c'est à toi.
Ok, bah écoutez, c'est un nombre.
Oui.
Et le nombre est 120.
120.
Ah, j'ai cru que c'est 21.
C'est un éphéméride, quoi.
C'est une unité?
Non, il y a pas d'unité.
C'est un nombre de personnes?
Pas un nombre de personnes.
C'est un nombre de quelque chose?
C'est un nombre de quelque chose.
Quelque chose qui se touche?
Non, ça ne se touche pas.
C'est pas de l'argent?
C'est pas de l'argent.
C'est des sites internet. Parce que ça, je m'en rappelle encore, me fait avoir sur le truc des sites internet d'Alonso l'an dernier.
Bah non, non, du coup non.
Ça a à voir avec internet ou rien, ou pas du tout?
Pas du tout.
Pas du tout. Avec la presse ou les médias?
Il a dit que c'était un truc à la con, hein, donc ça va être un truc assez simple.
Effectivement.
C'est le nombre de fois qu'on a demandé à Christian Horner s'il allait sanctionner Vettel?
Non, ça pourrait.
C'est le nombre de mots que comprend Vettel.
Non, non.
C'est le nombre de fois qu'on a demandé à Christian Horner si Weber allait être là en Chine.
Oui, ça pourrait être aussi, mais c'est pas ça.
Le nombre de femmes qui se sont jetées sur le circuit après la victoire de Vettel?
Non. Bah non, c'est quelque chose qui se touche pas.
Mais c'est quelque chose de répétitif?
Oui, il y a un côté répétitif, ouais.
C'est 120 fois la même chose?
C'est 120 fois un truc, oui. Que tu oh. peux.
Ah, mais les 120 sont pas différents.
Ils sont distincts, mais il y a un dénominateur commun, oui.
Donc c'est en guillemets un événement.
Bah, c'est 120 événements, si tu veux.
Ah, ouais. Ah oui, d'accord.
C'est 120 grands prix?
Non.
Est-ce que c'est récent?
C'est récent.
Dans les 10 ans, quoi, qui viennent de se passer.
Ah oui, c'est récent, oui.
Est-ce que c'est le 120e grand prix d'un pilote?
Non.
Quelque chose qui s'est passé cette année?
Oui.
Lors d'un grand prix de F1?
Oui, dans des grands prix cette année.
L'âge de Bernie de Ecclestone.
Tu disais, Ben?
J'ai dit le nombre de changements de pneus.
Ouais, je te l'accorde, ouais. C'est le nombre d'arrêts au stand cette année.
Oui.
Oui, bah voilà, c'est pour ça que je l'accorde. Voilà.
Ouais,
c'est
bravo, tout
Ben. Qui va se faire fermer son clapet, hein.
Bah écoute, Dino aurait été là, il y aurait un peu de suspense, mais si je devais te répondre là tout de suite...
Comme ça, là, tout de suite, bon, ok.
Donc, si j'ai bien compté, il y en a eu 53 en Australie. Et 67 en Malaisie. Sachant qu'en Malaisie, ça fait une moyenne à peu près de 3 pour chaque personne qui a fini un Grand Prix. Après, en Malaisie, il y a eu des changements de pneus au bout de 5-6 tours, donc on peut penser que qu'il n'y aurait pas eu cet arrêt supplémentaire, il n'y aurait pas eu 4 arrêts s'il n'y avait pas eu la pluie, quoi.
Ouais, ça aurait plutôt fait 2 ou 3.
Ouais.
Il reste encore dans des nombres acceptables, on va dire.
Oui. C'est vrai que 4...
4, ouais, ça commence à faire beaucoup, quand même.
Ouais.
Ça va, ça a tenu. Ça peut être une question de rapidité, la question de
oui.
la question du quiz.
Comme la triple couronne, par exemple.
Oh, je vous emmerde. Hein. Parfois, il faut faire des questions de rapidité, voilà.
Juste pour faire l'emmerdeur, est-ce que t'as les chiffres de l'an passé, par hasard?
Mais l'an passé, en fait, c'est difficilement... J'ai pas les chiffres exacts, je suis allé voir, mais c'est difficilement comparable parce que le Grand Prix de Malaisie était sous la pluie intégralement dans des conditions changeantes.
Et en Australie, t'as les chiffres?
En Australie, c'était une moyenne de 2 arrêts. Oui, effectivement, les pneus durent moins cette année, quoi.
Bah, c'est vrai que c'était assez surprenant de les voir s'arrêter aussi tôt. Hein.
En même temps, ils se sont arrêtés tôt à cause de la météo.
C'est en intermédiaire, ça s'est chute.
Ceci dit, en Australie, ils sont arrêtés tôt aussi sur... je crois que le premier qui s'est arrêté, c'était Button. Il n'y avait même pas 10 tours de course, quoi. C'est vrai que...
Super tendre oblige. Il faut mettre ça en perspective. Je sais pas si en 2012 quels étaient les pneus. Faut que je retrouve ça. Mais s'ils avaient pris dur et médium, là ils ont amené les super tendres.
Mais il me semble qu'ils étaient pas aussi souples l'an dernier, en tout cas en Australie.
Aussi mou, tu veux dire?
Ouais, souple, mou, chewing gum. Il y a plein de mots pour désigner.
En Australie en 2012, c'était tendre et médium. Donc oui. C'est pour ça que ça a tenu relativement bien, quoi, aussi.
Messieurs, justement, profitons de cette transition pour passer au podium de l'actu. Et la première actu, on a commencé à l'évoquer, c'est les pneus. Avec des déclarations, notamment Hamilton qui a déclaré qu'il ne s'amusait pas beaucoup avec ses pneus. Puis bien évidemment, il y a la discorde, on va dire, qu'il y a entre Pirelli et Red Bull et un peu Mercedes. D'un côté, enfin, on va dire qu'il y a deux camps, il y a Red Bull et Mercedes qui seraient pas mécontents que Pirelli rechange ses pneus, et Lotus et Ferrari qui disent non, il y a pas de problème.
Bah, de toute façon, à chaque fois, c'est chacun tire dans son sens, quoi.
Oui.
Ils s'aperçoivent qu'ils ont des problèmes, donc ils vont faire pression sur Pirelli pour que ça change.
Ce qui est drôle, comme le cité, je crois que c'est le premier commentaire qu'il y a eu sur l'article à ce sujet-là sur Fan F1, c'est que c'est quand même Red Bull et Mercedes qui se plaignent, et ils ont trusté les 4 premières places en Malaisie.
Oui.
C'est ça. Je suis étonné que McLaren n'ait pas cherché ça comme excuse.
Ouais, enfin, au bout d'un moment, il y a un moment où la merde est telle que, enfin, même, enfin, accuser les pneus, ça ne suffit plus.
Mais parce qu'au final, en plus, Button, il était en 3 arrêts.
Oui.
Donc il a réussi à les faire durer, ces pneus. Le problème, en fait, c'est que, sur les deux premiers Grands Prix, il y a eu trop de pluie pour qu'on se fasse vraiment une vraie idée à un moment ou un autre. Donc, je pense qu'ils se basent, ils essayent de tirer la couverture à eux, mais ils se basent sur des retours qui sont pas assez importants.
Je pense que, par exemple, Red Bull est très inquiet pour, la suite de la saison. Parce que, en effet, quand tu regardes le début du week-end en Malaisie, il était pas terrible du tout, et c'est quand il s'est mis à pleuvoir que les choses ont commencé à s'améliorer pour eux. Je pense qu'en fait, ils sont très inquiets sur le long terme. Fort logiquement, normalement, on devrait aller vers des températures de plus en plus hautes, je vais pas dire élevées, mais hautes, et donc, notamment quand il y aura des pneus super tendres, quand on voit comment ils ont déjà réagi là, sur des températures d'aller du un peu chaud au frais, hein, on va dire, ils se disent, mais qu'est-ce que ça va être dans 2-3 courses? Si.
Ouais, enfin, c'est pas encore. Par exemple, en Chine l'an passé, c'est pas chaud. Comme dirait Grandjean, ils se pelaient les miches. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a réussi à s'en sortir.
Quand je dis sur le long terme, c'est plus loin que la Chine. Hein. C'est vraiment sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Hein.
C'est à Pirelli aussi de dire, il va faire chaud. Bah, on va pas mettre les super tendres. Quoi. Ça va dépendre des choix de Pirelli. Ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu trop tôt pour juger.
Là, actuellement, ils ont fixé les composés jusqu'à quelle course?
Bah déjà en février ils disaient qu'ils avaient envoyé les pneus à Bahreïn, donc
oui,
c'est sûr
Bahreïn,
déjà
c'est fait,
pour Bahreïn c'est fait. Je dirais même que Barcelone et la course d'après qui doit être Monaco, ça doit être fait aussi quoi. On est début avril.
Ce qui finalement ouais, ils choisissent quand même largement en amont et on le voit avec la météo. Est-ce qu'il faudrait pas qu'ils choisissent peut-être pas au dernier moment, mais peut-être plus une semaine ou deux avant seulement avant
mais
chaque
est-ce que
Grand Prix.
Est-ce que c'est possible logistiquement de faire ça?
C'est ça le problème. Maintenant, je pense que ici, l'inquiétude des équipes, les légitimes, et c'est un peu pareil depuis que Pirelli est là. Enfin, chaque début de saison, on s'inquiète sur les pneus. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faudra clairement voir plus sur le long terme. Mais par rapport même à l'an passé, je pense qu'ils auraient très bien pu garder les mêmes pneus et quand même réussir à ce qu'on ait plus de course à un arrêt. Parce que quand on se souvient des pneus qu'ils avaient choisis pour Abu Dhabi, c'était un non-sens complet. Ils auraient pu carrément descendre de gamme, prendre des pneus plus tendres pour les deux composés. Parce que la piste, ils la connaissent, ils ont fait des essais dessus sur piste sèche, sur piste humide, enfin ils ont tout fait à Abu Dhabi, donc la piste, ils la connaissent. Donc je pense que même en gardant les pneus 2012, et en choisissant mieux les types de gommes, on aurait pu éviter d'avoir des courses à un seul arrêt. Donc est-ce que cette année, en voulant de nouveau augmenter le nombre d'arrêts, et en diminuant la durée de vie des pneus, ils vont pas un petit peu trop loin? Parce que c'est vrai que en Australie, certains ont été très 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 vite dans les stands. Au jour d'aujourd'hui, on peut le penser, mais c'est vrai qu'il faudra voir aussi sur la durée, parce que les équipes vont apprendre à mieux gérer les pneus, qu'elles n'ont pas encore vraiment pu tester dans des conditions optimales. En Espagne, il a fait dégueulasse, il a fait super froid, donc pour tester les pneus, tout le monde le disait, c'était pas possible. Et ici, en Australie, en Malaisie, les conditions météo ont encore été particulières. Donc.
Et pour Pirelli, ils l'ont dit, hein, s'il y a des changements, c'est pas avant Bahreïn. Donc il y aura au moins deux Grands Prix où ils devront se coltiner.
C'est pas avant Bahreïn
et il faut qu'il y ait une
majorité. Quoi.
Oui, puis quand ils disent changer, c'est peut-être pas dans le sens changer les composés. C'est peut-être juste, ils vont peut-être juste se dire bon bah vu qu'on a des pneus très souples, ce Grand Prix là, on va mettre des gammes un peu plus dures. Ils vont peut-être pas changer les composés.
Hein. Ouais. Changer les composés de toute façon en cours de saison, c'est délicat. Parce que aujourd'hui, des écuries comme Red Bull et Mercedes sont pas totalement satisfaites avec les pneus. Lotus et Ferrari a priori n'ont pas de problème, donc ils vont changer pour que Red Bull et Mercedes aient moins de problèmes. Oui, mais si ça impacte Lotus et Ferrari, ça va gueuler dans l'autre sens. Donc changer en cours de saison le composé type vraiment du pneu, ça c'est pas possible. Il faut rester logique. Enfin, c'est
même techniquement, il y a un temps pour élaborer le nouvel composé, tout ça. Il faut le tester. Non, c'est fini ça. Enfin,
ouais,
sur 2013, tu peux pas changer de composé. Mmh. C'est trop tard.
Non, puis même revenir à ceux de 2012, ce sera pas possible parce que de nouveau, il y a des équipes qui marchent bien avec les 2013, qui marcheront moins bien avec les 2012.
De toute façon, ils n'auront jamais l'unanimité, hein, ça faut bien le dire.
Oui. C'est clairement pas possible quoi. Donc on est parti avec ces pneus-là toute l'année. S'il doit y avoir des changements, ce sera pour 2014, pour peu que Pirelli reste, ce qui n'est pas encore garanti et Paul Hembery aimerait quand même bien que ce le soit.
Ça le soit rapidement.
Ça peut se comprendre aussi. Enfin, les voitures vont être différentes. Pirelli, il faut qu'il travaille. Les pneus vont forcément être différents. Donc, c'est logique qu'il y ait un investissement qui va être fait. Et aussi bien de réflexion que vraiment financier. Donc, c'est normal qu'ils espèrent être fixés assez vite, quoi. Pour pouvoir fournir des pneus corrects.
Deuxième actu. On a failli se retrouver avec 10 écuries seulement. Parce qu'en effet, on a appris que cet hiver, Marussia et Caterham ont failli fusionner. En tout cas, il y a eu des débuts de discussion. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que finalement, ça a peut-être été plus utile d'avoir une équipe moyenne plutôt que deux petites équipes? Si elle avait réussi à être moyenne.
Moi, quand je vois honnêtement, la Marussia cette année, on sait pas encore un foot de guerre. Mais sincèrement, je trouve que l'équipe progresse quand même pas mal. On a vu tout au long de la saison dernière, elle progressait avec une voiture qui, à la base, n'était pas exceptionnelle. Ici, je pense qu'ils ont une bonne base. qu'ils sont pas mal.
Ça a capoté notamment parce que le contrôle, entre guillemets, serait passé à Caterham, mais les propriétaires russes, c'était pas question.
Bah, de toute façon, c'est dans l'absolu, c'est ça, voilà, c'est complexe, parce qu'on a d'un côté Caterham qui est une marque, on a Marussia qui, oui, est une marque.
C'est une marque, hein.
Une marque aussi, oui.
Une marque. Qui est une marque, même si, elle nous parle beaucoup moins. Et donc, forcément, ça peut pas avoir pas fusionner deux équipes qui ont deux intérêts différents finalement. Ce serait un peu comme si tu fusionnais Ferrari et McLaren. Ils ont ces deux marques et elles ont pas les mêmes, tu vois. C'est compliqué. Ah non, c'est pas comme tu pourrais fusionner deux marques commerciales à la limite. Enfin, deux marques, t'aurais pu fusionner Williams Tyrrell par exemple, je sais pas. Mais là, c'est compliqué. Deux constructeurs.
Bah là, on a potentiellement deux marques qui sont en opposition directe. Voilà. Là, oui.
Donc, maintenant, au niveau financier, ce qu'ils auraient eu, c'est-à-dire que le budget de Caterham et le budget Marussia auraient aussi fusionné pour en faire plus qu'un, ou est-ce que tu vois? Alors dans cet aspect-là, oui, ça a du sens parce que plus d'argent, plus de performance.
Oui, mais attention, les fusions, dans le cas des fusions, 1 plus 1 fait rarement 2. Parfois, ça peut faire 3, mais parfois, ça fait que 1,5.
Ouais, mais enfin, au moins ça donnait une écurie plus pérenne que que les deux, quoi. On aurait eu, enfin, au court terme ça changeait rien parce que mettons ça se serait passé pendant l'hiver. Ils seraient venus aux essais avec, ils auraient fait alterner les deux voitures pour prendre la meilleure. Donc cette année ça aurait pas changé, ils auraient sûrement pris la Marussia parce que visiblement c'est la plus performante. Après c'est sur 2014 où ça leur faisait 150 millions d'euros de budget ou 150 millions de dollars, sur 2014, ça leur permettait de faire quelque chose de mieux, plus de personnel, et peut-être moins de pilotes payants, quoi, parce que...
Oui.
Sur 2014, ça commençait à devenir intéressant, mais sur 2013, ça aurait pas changé grand-chose.
De toute façon, Caterham, je pense qu'ils visent clairement 2014, quoi. Parce que leur voiture, nouvelle voiture, c'est la voiture de l'an passé, enfin, soyons clairs.
Oui, ils sont clairs avec ça
aussi. Ce n'est pas une voiture.
C'est une brique.
Verte.
Ouais.
Ceci est une révolution.
Non, ils l'ont dit, c'est un peu une hybride entre la voiture 2012 et celle 2013. Ils disent qu'ils auront un gros package à Barcelone, je crois.
Oui, mais enfin, le gros package Barcelone l'an dernier, il a pas apporté grand-chose, hein. Donc, faudra voir ce qu'il vaut. Parce que j'ai pas l'impression l'an passé que les packages de Caterham étaient exceptionnels. À Barcelone, ils avaient des nouveautés, ça a pas fonctionné. À Silverstone, si je ne m'abuse, ils avaient aussi des nouveautés, ça a pas fonctionné.
C'est vrai qu'ils ont passé la saison à dire, ouais, on a un nouveau package, on va le faire fonctionner. Et c'est vrai qu'ils ont toujours bruit derrière.
Oui, puis même à ce niveau, faut pas oublier que oui, Caterham aura un nouveau package, mais Marussia, ils vont pas stagner. Et en plus là, visiblement cette année, il y a peut-être quelque chose à faire, hein, peut-être des points à aller chercher. Ça vaut le coup peut-être se défoncer sur cette voiture cette année chez Marussia. Donc oui, c'est compliqué quand même pour Caterham.
Ouais, cette année, c'est clairement un qui doit, même s'il dit le contraire, il doit un peu regretter, c'est Charles Pic, parce que la Caterham...
Oui, bah après, il doit se dire...
Non, il a dit qu'il regrettait pas son choix.
Non, il a dit qu'il regrettait pas. Mais après, il
va pas dire le contraire, mais... ceci dit, sur le fait que je suis pas très optimiste pour eux pour cette saison, en tout cas, c'est d'abord la voiture, clairement, qui est une simple évolution de la voiture de l'an dernier, qu'ils ont quand même pas vraiment réussi à faire fonctionner, quoi. Leur 10e place, ils la doivent à Charles Pic. Donc, j'ai presque envie de leur dire que s'ils veulent encore être 10e l'année prochaine, engager déjà Bianchi, ça ira plus vite. Mais, c'est vrai que Caterham, je pense que 2013, c'est clairement, ils sont là pour, parce que presque par obligation, enfin, je vais pas dire par obligation, mais ils sont clairement déjà tournés sur 2014. Ce qui est aussi la preuve qu'ils ont pas les moyens.
La 10e place, elle est quand même pas anodine, hein.
Non. C'est ça. Il faut voir si c'est ça qui est compliqué. Il faut quand même réussir à emmagasiner les points, les deniers de la 10e place. Se tourner sur 2014, mais je pense qu'ils ont pas les moyens de, en même temps, mener de front vraiment un beau programme 2013 et de travailler sur 2014. Donc, à la limite, la problématique inverse va se poser pour Marussia. Faudra voir ce qu'eux vont pouvoir faire en 2014, parce que eux, je pense que leurs finances, elles sont vraiment pas, non, si les finances de Caterham sont même pas meilleures que celles de Marussia dans l'absolu.
Elder, un dernier petit mot sur le sujet. Il a peur de Ben.
Je suis super intimidé par Ben, quoi, en fait. Je dois le reconnaître. Je l'écoute. Je m'abreuve de ses paroles et je m'instruis.
Il sait qu'il est la première.
Je vais m'endormir intelligent.
Dino n'est pas là. C'est surtout ça.
Ah non, mais en plus, comme je dis pas ça parce que Dino dit de la merde d'habitude, hein, mais c'est vrai que là le débat est super intéressant et je laisse Gus et Ben se renvoyer la balle. Toi de temps en temps t'essaies de l'intercepter au milieu, mais moi je suis là, je suis bon, ben, je vais me perdre. On va attendre mon heure. Hein.
Tiens, Léa, est-ce que t'as envie qu'on parle du malaise des consignes? Hein, j'ai vu dans tes actus, t'as mis des choses, ça te donne envie, parce que oui, la troisième actu, c'est le malaise des consignes, mais non, c'est la post-affaire, hein, les conséquences, l'affaire des consignes, notamment chez Red Bull, finalement pas trop chez Mercedes, comme quoi ça va vite passer chez Mercedes.
C'est passé comme une lettre à la poste.
Bon, en même temps, c'est pas comme si c'était un truc nouveau, les consignes en F1, clairement. Hein, t'en as des très célèbres, t'en as des très dramatiques, dont Monsieur Villeneuve nous a rabâché les yeux dans la presse écrite le reste de la semaine. Donc quand son défunt papa s'est fait entuber par son coéquipier au dernier virage d'un Grand Prix, au dernier tour d'un Grand Prix. Mais non, moi je suis pour les consignes d'équipe dans le sens où c'est mieux que ce soit clair plutôt que ce soit hypocrite comme ça a pu l'être, où on t'envoyait des messages codés et appuie sur le bouton bleu, ok, c'est bon, j'ai compris.
Mais c'est rigolo en plus, c'est que malgré le fait que ce soit autorisé, il s'est toujours codé au final.
Oui.
Ouais, mais ça, c'est pour les autres,
et là, on voit que ça balance beaucoup entre les équipes, hein, parce qu'on voit que Wismarsch qui rappelle, qui tient à traiter ses pilotes de manière équitable, comme par hasard. Ouais,
enfin, ça. Après l'année où il a fait avec Alonso, il a quand même pris Kovalainen derrière pour se dire bon, on va calmer le jeu.
Horner qui dit mais ils nous critiquent tous, mais ils auraient fait pareil. Bah, en même temps, ils ont déjà fait pareil.
En même temps, la différence qu'il y a entre Red Bull et Ferrari par exemple, c'est que chez Ferrari, on sait qui est le numéro 1, on sait qui est le numéro 2, et donc il y a pas de besoin de code quoi. Quand le numéro 2 il est devant, tout ce qu'il a à faire c'est décélérer, laisser passer le numéro 1. C'est pas bien compliqué.
Bah, chez Red Bull, en absolu, on sait très bien aussi qui est le numéro 1, qui est le numéro
2.
En 2010.
Oui,
quand,
mais
c'est
pas concret.
Ouais, c'est pas concret.
Je veux dire, c'est pas dans le... Red Bull essaye de nous faire croire qu'il y en a pas.
Voilà, c'est ça. Pendant longtemps, ils ont dit
donc,
oui.
Ils nous prennent un peu pour des cons, mais mais chez Red Bull, on sait très bien.
En fait, je crois que Red Bull en a mal interprété leurs propos au départ. Ils ont jamais, il y avait pas de consigne, mais ils disaient que jamais ils avantageraient un pilote par rapport à un autre. C'est pas du tout la même chose. Là, la consigne qu'ils ont donnée, elle est logique. Ça rentre dans le cadre d'une stratégie d'équipe qui vise à assurer le meilleur résultat possible. Pour eux, que ce soit multi 21, multi 12, c'est exactement la même chose. C'est 43 points. C'est très important quand tu sais que Ferrari n'a qu'un pilote dans la course, que derrière Mercedes, si jamais il y a un problème, est là pour récupérer les 43 points. Donc, quand on sait en plus qu'il y a les problèmes avec le pneu, que Weber a connu des problèmes de Kers en Australie, etc. Tout leur intérêt est de geler les positions pour pas qu'il y ait de problème.
Moi, ce que je trouve, c'est que, enfin, sur Red Bull, on critique Vettel parce qu'il a passé Weber. C'est vrai que dans l'absolu, enfin, moi, si on regarde la F1, c'est pas vraiment des pilotes se battre. Et c'est vrai que les consignes d'équipe, c'est le genre de truc qu'on n'aime pas ça.
Ah, mais, alors,
maintenant,
justement.
C'est vrai qu'il faut aussi admettre que la F1 est un sport d'équipe, un sport business, et que, non, Red Bull peut pas se permettre, à 15 tours de l'arrivée, de perdre deux voitures. Ils ont déjà failli le faire en Turquie en 2010. Ils ont dû s'en souvenir. Mais d'un autre côté, on critique Vettel pour avoir outrepassé les ordres. Mais d'un autre côté, on se dit que, on se dit que ça aurait été bien que Rosberg fasse pareil. À la limite, Rosberg, il a été trop con, il est resté derrière, quoi. C'est vrai qu'il y a un peu de...
C'est beaucoup lié au fait que c'est Vettel.
Bah, c'est les gens qui gagnent trop, ils finissent par agacer. Pareil avec Schumacher, voilà.
C'est vrai que quand Weber a essayé de faire exactement la même chose en 2011,
dit que c'est un héros.
Oui, mais c'est passé à l'as en plus parce qu'il est pas passé, mais effectivement, on dit que c'est un héros, on dit qu'il a raison. Alors que son attitude à l'époque est tout aussi critiquable que celle que Vettel aujourd'hui.
Ça a dû peser dans la balance dans la tête de Vettel quand il s'est retrouvé derrière et qu'il voyait qu'il était plus rapide. Il a dû se dire, attends mon coco, il y a 2 ans ou 3 ans t'as essayé de me la faire à l'envers, je vais te rendre la monnaie de ta pièce.
Et puis,
la seule chose de positif que je donnerais dans ces derniers tours finalement avec ces attaques de Vettel, c'est que ça a fait des magnifiques images quoi. Vraiment, ils se sont mis clairement sur la gueule, c'était d'une beauté. Il y avait une maîtrise des deux côtés, c'est... Ouais, et je dis pas ça pour encenser Weber, mais c'était très très beau.
Mais, ceci dit, en plus, franchement, Weber, quand tu regardes le Brésil l'an dernier, il a été documenté à Vettel, quoi. J'ai même envie de dire qu'il ouvre la porte de Ferrari et puis démerdez-vous les mecs. Donc je pense que Vettel l'avait aussi ça en tête. Donc je pense que voilà. De toute façon ils ne s'apprécient pas. Ils partiront jamais en vacances ensemble. Ça, on le sait. Ça fait longtemps qu'on le sait.
C'était quel Grand Prix Ben où Weber est deuxième et il remonte comme un fou sur Vettel et on entend les communications radio où on dit à Vettel où on dit à Weber t'es gentil mais t'es numéro 2, tu restes derrière. En gros je schématise. Et mais Weber ne double pas. Mais il fait clairement comprendre qu'il avait largement la possibilité de le faire et il se range derrière son coéquipier alors qu'il avait la possibilité de le dépasser à ce moment-là. Bon, je dis, je rééquilibre un peu la balance.
Ouais, non, mais je sais, oui, mais il y a une course aussi où qui gagne. C'était à Silverstone, je sais plus quelle année, et il termine la course en disant pas mal pour un numéro 2.
Ah, mais ça, c'était pas avec les ronds, ça.
C'est l'année du fameux
Grande-Bretagne 2010.
2010.
Où on rappelle donc du coup, ouais, Vettel casse l'aileron en essai. Un nouvel aileron qui valait 2 dixièmes au tour, je sais pas quoi, et l'équipe a œuvré pour que l'aileron de Weber, qui lui n'avait pas cassé, alors je sais pas si c'était de la faute de Vettel s'il avait cassé ou pas, mais en tout cas ils ont transféré l'aileron de Vettel sur,
et après ils ont dit non mais il y a pas de différence, mais ils ont même pris la tête à changer l'aileron. Et
ouais, c'est pour ça que quand je dis ils nous font croire qu'il y a pas de numéro 1 numéro 2, on sait très bien qu'il y a un numéro 1 numéro 2. Vettel devait être le premier champion du monde Red Bull, c'est un produit marketing Vettel. Mais c'est le produit maison, c'est obligé qu'il fonctionne.
Mais est-ce qu'à l'époque aussi, Vettel n'était pas devant Weber au championnat à ce stade-là? C'est parce qu'à ce moment-là, tu critiques aussi le fait que Lotus choisisse Raikkonen, choisisse de mettre le fond plat sur Raikkonen avant Grosjean, alors que c'est tout à fait logique.
Oui, normalement chez Lotus l'année dernière, ils avaient dit une fois un, une fois l'autre. Et il s'avère que c'est souvent l'un et moins souvent l'autre. Voilà, il y a, je pense qu'effectivement, sur l'an passé, il y a sûrement aussi une hiérarchie qui s'est créée chez Lotus.
Oui, clairement.
Et tout, d'abord parce que Raikkonen a fait un tour exceptionnel, que Grosjean, il s'est un peu emmêlé les pinceaux à certains moments. Même si, début de saison ici, on n'a rien à lui reprocher. Contrairement à Maldonado qui, lui, n'a pas forcément brillé. Donc voilà, maintenant, est-ce que si Grosjean continue à performer de la façon dont il le fait, il n'aura pas aussi accès plus facilement aux nouveautés, faudra voir aussi, mais...
Woulier a été très clair, hein. C'est celui qui est en tête au classement qui a les nouveautés en premier. S'ils ne peuvent pas fournir les nouveautés au même moment.
Après, ils ont dit qu'ils souhaitaient quand même, si possible, le faire. Donc quoi, s'ils peuvent le faire, peut-être que ça changera. Ils ont peut-être les évolutions les mêmes week-ends.
D'ailleurs, à la décharge de Grosjean, deux grands prix où il termine.
Grosjean, il fait sur ses deux premiers grands prix.
Très bien, celui de Malaisie, très franchement, il a fait une meilleure course que Raikkonen.
Oui.
Donc non.
Ah ouais, non, mais clair. D'ailleurs, il termine devant, y a pas de secret.
Et ce qui est assez fou, je crois que je l'avais déjà évoqué, c'est que sur l'Australie, après course, il a dit, j'ai fait gaffe parce que sinon, j'ai failli rentrer, alors je sais plus dans qui, mais il a dit qu'il a failli rentrer dans une autre voiture. Alors, imaginez, il commence sa saison et il refait un pet.
Ah ouais, non, ça c'est foutu. Ah ça, oui. Il fallait surtout pas pour lui, quoi.
Il faut qu'il recommence du début, quoi.
Mais en Australie, je pense qu'on a non seulement sa voiture marchait pas exceptionnellement bien, mais je pense qu'il était très certainement sur des œufs déjà au départ parce que c'était la première course et qu'il fallait vraiment pas qu'il fasse de conneries. Il s'est fait peur au virage numéro 3, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que ça l'a refroidi. Donc en Australie, il a sûrement fait toute la course sur des œufs.
Bah, à l'aise,
en Malaisie, il est un peu reparti. Déjà, il était plus à l'aise avec la voiture à partir des qualifications, donc déjà ça aide. Je pense qu'en Australie, il n'était pas à l'aise avec la voiture en plus, donc ça arrange rien.
Oui, parce qu'il y a des problèmes de hauteur de caisse. Il n'y a pas du tout la même hauteur de caisse que Raikkonen. Après coup, ils s'en sont aperçus.
Ouais, bah c'est, en Malaisie, ils sont d'ailleurs partis. Il a commencé son week-end avec les réglages de Raikkonen, je pense, pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas.
Alors sinon, pour finir un peu sur l'histoire des consignes sur FanF1, on vous avait posé comme question pour un sondage: Red Bull doit-elle sanctionner Vettel? Parce que c'est John Watson notamment qui en avait parlé.
La bonne blague.
Ah mais moi je crois que c'était une blague le gars qui a dit qu'il fallait sanctionner Vettel. Ok, Vettel c'est une grosse censure, mais quand
sur
même.
Sur 437 votes, il y a quand même eu 312 votes, donc 71%. Qui ont dit oui.
Ah ouais, quand même.
Seulement 27% non.
Moralement, oui.
Il s'est fait monter les boîtes.
Oui, non, mais il aurait fallu.
Ça dépend de la sanction, après. Oui. On peut suspendre pour une course, c'est ridicule. Enfin,
ouais, faut pas faire ça. Non plus, mais...
Après, un truc sur lequel tu peux communiquer du genre, bon, bah voilà, tes primes, tu les touches pas, on les reverse à une association. C'est symbolique, mais voilà, c'est reconnaître qu'il y a eu une erreur et faire un beau geste en même temps. Voilà.
De toute façon, en interne, il a sûrement dû se faire remonter les bretelles, parce qu'au niveau de l'image de Red Bull, c'est quand même pas...
Mais le problème, c'est que...
Je pense qu'ils en ont un peu rajouté aussi de leur côté, mais...
Le problème, c'est que en public, il est presque défendu par Horner. Horner dit, oui, tout le monde aurait fait la même chose. Je crois que la phrase exacte, c'est Alonso ou Hamilton aurait fait la même chose. Peut-être, ouais. Mais... C'est pas pour autant que tu dois excuser un comportement qui finalement est pas professionnel et pas respectueux pour le reste de l'équipe. Ils ont fourni un travail, mettre en danger ce travail d'équipe pour son propre intérêt personnel, c'est pas judicieux, je trouve.
Le patron de Red Bull a appelé Horner en lui disant plus jamais je vois ça à la télé. Hein.
C'est vrai que même Matoschitz, qui d'habitude est quand même relativement discret, a quand même dit qu'il avait moyennement apprécié. Hein, donc
C'est pas une très bonne
pour l'image de Red Bull,
c'est ça.
Commercialement parlant,
c'est ce qu'il a dit. C'est au niveau de l'image de Red Bull, c'est pas très bon, quoi.
Mais bon, c'est en même temps, je comprends très honnêtement, je comprends la partie compétiteur de Vettel. Je la comprends. Ça veut pas dire que je l'accepte, que j'approuve ce qu'il a fait, mais je peux comprendre le mec. Sa troisième couronne, il l'a eu. Il s'est pas fallu de grand chose pour qu'elle lui revienne pas. Donc là, il peut grappiller 7 points. Alonso, il est pas en piste, donc c'est 25 points qu'il met à Alonso.
Ouais, clairement.
Ok, ben non. Moi je veux ma quatrième couronne, je veux devenir une légende, donc Marc t'es gentil, je passe
okay,
devant,
parce que devant
oui l'an dernier il a gagné le titre pourquoi 3 points, donc ici 7, il sait que ça fait peut faire la différence, il le sait
évidemment,
clairement.
Début de saison, c'est pour ça que je comprenais pas les gens qui disent oui mais des consignes dès le début de la saison c'est n'importe quoi. Non, une saison c'est une saison, c'est dès la première course que ça se joue, parce que quand t'arrives à la dernière course et que tu perds le championnat pour un point, n'est-ce pas monsieur Massa, je sais pas, psychologiquement, faut vraiment être très, 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 très fort dans sa tête pour se dire, putain, si à la première course j'avais fait ça, j'aurais été champion.
Tu veux écrire une petite histoire, Elder?
C'est clair que c'est Alonso qui doit, enfin, d'ailleurs, il a dit que ça l'amusait, mais, parce qu'en plus, lui, il a vécu la même chose en 2007. Il sait très bien qu'une mauvaise ambiance dans une équipe, ça fout tes chances, voilà.
Ah, c'est pour ça qu'ils se frottent tous les mains, hein. C'est,
oui, voilà, moi je pense que Raikkonen et Alonso, ils ont sabré le champagne. Hein,
mais voilà, même chez Ferrari, parce qu'au niveau du... Enfin, imagine qu'ils vont aller se foutre dehors, ça va faire des points à moins chez Red Bull, ça va faire des... Chez Ferrari, ils ont quand même Alonso qui est... Enfin, l'an passé, il a montré qu'avec une voiture pas exceptionnelle, il a quand même fait une super saison. Ici, on a Massa qui est quand même revenu. Voilà.
Moi, j'avoue, quand j'ai vu Vettel ressortir, je sais plus si c'était Weber ou Vettel qui ressortait en dernier. Quand je les ai vus Fritter sortant, j'ai fait « Ouais, tu bois, vas-y
!» Allez, on va passer à une quatrième nouvelle, une nouvelle organigramme. Il y a un an, on évoquait le départ d'Alan Parr. Et, oui, c'était il y a un an, à peu près. On a eu une information sur l'organigramme de Williams avec l'arrivée de Claire Williams. Il devient vice-directeur de l'équipe.
Moi, j'ai lu beaucoup de critiques à l'encontre de Frank Williams directement, des mecs apparemment des gros actionnaires qui disaient de toute façon l'écurie, elle a un truc hyper archaïque et c'est Frank qui dirige tout et il a une vision qui est devenue archaïque aujourd'hui et il doit changer sa vision des choses et pour ça il faut qu'il parte.
Mais c'est ce qui ressort un peu souvent dans quand on parle de Williams, en fait, j'ai l'impression. Et c'est vrai que moi, Adam Parr, je pense qu'il a été pour beaucoup dans le redressement de l'équipe et que la saison 2012, il n'est pas étranger. Je pense aussi que le fait qu'il soit parti, le fait que Toto Wolff maintenant soit parti aussi, c'est pas une bonne nouvelle pour Williams. Son début de saison est pas exceptionnel. Apparemment, ils savent plus ou moins d'où ça vient. Ça sera surtout au niveau des échappements que ça fonctionne pas comme ça devrait. Mais c'est vrai que sur le long terme, il y a quand même beaucoup de départs de personnes clés qui pour moi sont clairement à la cause du redressement de Williams ces dernières saisons. Je pense pas que ce soit une bonne nouvelle de les voir partir et, l'arrivée de Claire Williams, c'est peut-être aussi le signe que Frank va prendre du recul.
Ça fait longtemps qu'il veut le faire, mais le problème, c'est que comme toutes ces personnes, justement, sont parties, Adam Parr, Toto Wolff, ou quand même, on se disait, voilà, c'est peut-être des gens qui vont reprendre.
Ouais, mais Adam Parr, il a un peu sacrifié pour oui. sur l'hôtel de l'argent aussi, lui. Oui. Hein. Toto Wolff, il est parti de son propre chef, mais Adam Parr, il s'est quand même fait un peu...
C'est pas parce que Bernie voulait pas qu'il soit
bah,
là.
C'est Bernie, non, il ne voulait pas de lui.
Et en échange du départ de Parr, Williams a eu des petits avantages financiers, comme Ferrari en a aussi, parce que Ferrari est l'équipe la plus ancienne du championnat du monde, hein, même si on pourrait très bien faire 100, il faut quand même qu'elle reste. Ouais, ouais, Williams a négocié comme ça.
Après, est-ce que l'arrivée de Claire Williams, moi je la connais pas, franchement, je sais pas qui... enfin, je sais que c'est la fille de Frank Williams.
Oui.
Je sais pas...
C'est une nouvelle ère qui devait être annoncée beaucoup plus tôt, mais malheureusement, Frank Williams a perdu sa femme, donc ils ont retardé l'annonce.
Donc, moi, je sais pas si ça va changer grand chose, parce que du coup, enfin. Elle a dû quand même être vachement influencée par son père.
Ah bah oui, le but c'est de mettre sa fille pour que, entre guillemets, l'esprit de la famille reste dans l'équipe.
Voilà, donc ça a pas forcément changé grand-chose. C'est un peu horrible de dire ça, mais tant qu'il sera vivant, quoi.
Non mais c'est vrai, tant qu'il sera là, il y aura sa présence. D'ailleurs, elle n'est pas directrice, hein. Il y a toujours Frank Williams au-dessus d'elle, hein.
Oui.
Mais c'est vrai que Williams, ça fait un peu figure... Ils font un peu figure de dinosaure. Enfin, maintenant, Patrick Head n'est plus là, mais il y a quelques années, il était encore là, et avec Frank Williams, c'est vrai que c'est le duo qui est là à la tête de l'équipe depuis le tout début.
Même par rapport aux autres équipes, c'est quasiment le dernier que... des années 90, mais plus que ça, des années 80 et 70. Toutes les autres, même les plus grandes équipes, n'ont plus les mêmes têtes.
Non, chez Ferrari, même Montezemolo n'est pas là depuis aussi longtemps. Non. Enfin, il est arrivé en 77, il est reparti, il est revenu, mais...
Mais il n'est plus à la direction de l'équipe. Il a une énorme influence sur l'équipe, ça c'est sûr.
Mais c'est pour ça que je veux dire, chez Ferrari, même tout au-dessus, il n'y a pas cet héritage-là, donc... Le seul qui avait encore ça, c'était Tyrell, mais enfin Tyrell, ça fait longtemps qu'il est plus là.
Ron Dennis n'est plus là.
Ron Dennis n'est plus là. Chez Ferrari, il y a eu des Valls de directeur de patron d'équipe.
Enfin, Valls, quand même pas. Il y a eu Dominique Allier, avant lui, il y a eu Todd. C'est pas non plus la Valls. Il change pas tous les ans,
non plus. Non, mais si tu prends par rapport à Williams,
de
Williams chez Ferrari, ça a été...
Ah, mais c'est inégalé, c'est ça.
Ils ont connu ça.
Oui, il en a vu beaucoup.
C'est imbattable chez eux.
Il en a vu beaucoup, des confrères, hein, Frank Williams, dans sa carrière.
Mais en même temps, c'est une équipe qu'on n'a pas envie de voir disparaître non plus, parce que, justement, il y a ce côté un peu artisan, et ce côté vrai passionné de la Formule 1. Sport auto.
Avec Sauber, c'est les seules équipes qui ne vivent que de la F1.
C'est le dernier des garagistes.
Et le dernier, voilà.
Oui, enfin, Williams, c'est un peu développé en dehors. Ils fournissent des caisses, des trucs. Ils essayent quand même d'avoir des revenus extérieurs, parce qu'au niveau sponsoring, c'est pas évident.
Mais voilà, c'est pas des constructeurs automobiles, c'est pas des grosses sociétés automobiles. Parce que même McLaren est un constructeur automobile maintenant.
Oui, mais c'est vrai que c'est les deux seuls qui, en guillemets, n'ont rien à vendre.
Oui.
Parce que même Force India, ils vendent des trucs via Vijay Mallya. Donc, c'est vrai que Sauber.
Si, McLaren, ils vendent des systèmes de télémétrie qui fonctionnent parfaitement.
On va en reparler.
Enfin, cinquième et dernière actu importante, ça va être un gros point moteur, oui, parce qu'on ne parle plus de transfert, mais quand on ne parle pas de transfert, quand on ne parle pas de circuit, quand on ne parle pas de pilote, on parle des moteurs avec plusieurs nouvelles. D'un côté, Force India, donc qui confirme son V6, ça sera le V6 Mercedes. De l'autre côté, y a-t-il un lien de cause à effet ? Marussia qui dit ouvertement, ça sera soit Ferrari, soit Mercedes.
Bah, c'est pas très surprenant en même temps. Cosworth, on sait qu'ils seront plus là. Renault, je les vois mal.
Ah, Renault, ils en équipent déjà plein et on peut se demander s'ils vont pas en lâcher une.
Ah oui, le problème c'est laquelle.
C'est laquelle.
Renault, ils en équipent 4 et ils sont en pourparlers avec Toro Rosso. Hein. Donc pour Marussia, si tu veux, il reste pas beaucoup de choix possibles, quoi.
Mais Marussia Ferrari, ce serait quand même très surprenant parce que Marussia, le partenaire technique privilégié, c'est quand même McLaren. Que le moteur Ferrari se retrouve dans une écurie qui a des liens. Proche, je sais pas, mais qui a des liens quand même avec
McLaren.
Ouais,
mais ils peuvent changer leur partenariat. Hein.
Non, mais il y a Bianchi aussi.
Ou alors, ils gardent Mercedes. Enfin, ils prennent Mercedes peut-être pour un an. Honda s'offre deux écuries pour arriver, pour venir.
Oui, c'est pas impossible.
Ouais, parce qu'Honda, ça sent quand même que ça va arriver. Mm. Ce qui serait bien, enfin voilà.
Après, 5 équipes Renault, ça commence à faire beaucoup.
5
hein.
équipes Renault, c'est vrai que ça fait beaucoup. Je pense que même eux, ils en veulent pas plus.
Peut-être même qu'elles pourraient en lâcher une. Alors, sachant que s'ils prennent...
Bah, c'est mauvais pour Williams, alors, ça.
Williams ou Lotus.
Ou Caterham.
Parce qu'ils vont pas lâcher Red Bull.
Ah, Caterham.
Caterham, ils ont des accords financiers extra-sportifs avec eux, donc ils peuvent pas la lâcher non plus.
Ouais, voilà.
Donc, il reste, Lotus et Williams.
Non, Lotus, ils vont pas lâcher Lotus, quoi.
Bah, pourquoi pas?
Sur le plan historique, Williams, c'est tout aussi importante. Enfin, tu vois, l'héritage Lotus Renault, Williams Renault, j'ai même envie de dire que ça penche plus
en faveur de Williams. Et en même temps, faut pas oublier qu'il y a eu des Lotus Honda et des Williams Honda. C'est pareil, on est toujours sur la même chose.
Oui, bah oui,
c'est vrai.
Oui, mais ou alors,
parce que c'est aussi l'autre nouvelle moteur hein, qu'on a eu, Lotus Zytek.
C'est un pari, hein. C'est un pari à prendre, mais pour l'instant, c'est encore. Ils considèrent, mais c'est pas encore fait.
Ouais, c'est...
Mais ça ferait du bien. Hein,
Zytek, c'est un peu comme Mécatron, quoi. Une société qui est quand même présente depuis très longtemps dans le sport automobile,
ouais.
Notamment en endurance. Hein.
Ouais.
C'est pas pur Zytek, hein. Pas du tout. Hein. Zytek, non mais c'est vrai, c'est une société qui existe depuis longtemps en sport automobile.
Ouais, ça pourrait, parce qu'en même temps, je vois mal Honda arriver derrière McLaren. On vient, mais on équipe aussi une autre grosse équipe,
ouais.
Williams. Lotus. Pas sûr que McLaren apprécierait, quoi.
Bah, sauf s'ils ont la garantie d'être l'équipe première. C'est ça le truc avec McLaren. Que le constructeur vende leur moteur à d'autres, pourquoi pas. Mais ce que McLaren a toujours préféré et a mis en avant, c'est des partenariats privilégiés avec leurs motoristes.
C'est même dans leur intérêt qu'il y ait une autre écurie, parce que
oui.
Qu'il y ait qu'une seule écurie qui développe
un moteur. Surtout pour un nouveau moteur.
Ouais.
Oui, bah à la limite, ce qui pourrait être intéressant pour eux, c'est que Honda motorise donc McLaren et une équipe, par exemple, comme Sauber,
Marussia,
ou même, ouais, pourquoi pas Marussia, une équipe entre guillemets de seconde zone qui va pouvoir permettre à Honda d'avoir plus d'infos, mais qui va pas venir jouer dans la cour de McLaren, parce qu'avec Lotus, enfin à la limite, mais dans ce cas-là, Williams, au jour d'aujourd'hui.
Si le moteur est très bon, enfin franchement, si Honda arrive, dit, on équipe à la fois Lotus et McLaren, tu te dis. Pour que ces deux grosses équipes se soient intéressées au moteur, c'est qu'il doit quand même être pas mal.
Honnêtement, moi, le retour d'Honda chez McLaren, moi, ça me plaît. D'abord, c'est un nouveau constructeur, c'est...
Nouveau.
Honda, de la manière... Oui, enfin, oui. On se comprend, mais c'est un qui revient, en tout cas. Un plus sur la grille, un différent.
Mais t'imagines, la guerre qu'il y aurait entre les trois constructeurs, actuellement, en place, et Honda qui débarque, qui prend McLaren, qui devrait arriver, qui chope, par exemple, le Lotus et Williams au passage, t'imagines comment ça commencerait à balourder dans tous les
et
sens.
Et le contrat de Red Bull et Renault, il court jusque quand? Ils ont renouvelé pour 2014.
Non, c'est même pas sûr. Hein.
C'est pas 2016 ou 2015.
Non, ils ont, c'est pas confirmé. Encore.
C'est pluriannuel. En plus, il y a quelques semaines, ils avaient dit, oui, après tout, ça s'appelle Red Bull Renault. À la limite, on enlève leur nom, on met Infinity, on rebadge.
Ouais, mais enfin, le moteur vient du même endroit.
Mais
ça
d'un point de vue marketing pour Renault, déjà qu'ils se plaignent, qu'ils exploitent pas, qu'ils ont pas assez de bénéfices des victoires de Red Bull.
Ouais, en même temps, qui a décidé de foutre Infinity sur la voiture? Bon, au bout d'un moment, c'est un peu contradictoire cette affaire. Non, mais il y a aussi l'option que l'ombre VW au-dessus de Red Bull, quoi. Pourquoi pas?
Ah, ils vont être vachement occupés quand même. Hein. Et Audi et Porsche en endurance en même temps, parce que ça se confirme, ça.
Ouais.
Ils vont se battre.
Volkswagen au WRC.
Oui.
Mais honnêtement, en endurance, je comprends pas.
Ouais.
Si j'ai envie de dire,
bah, c'est ce que tout le monde se disait. C'est en gros, ouais, on ramène Porsche au Mans parce que bon, Porsche et le Mans c'est quelque particulier. Et Audi, faut qu'ils s'occupent. S'ils allaient du côté de la F1, puisque à un moment ils disaient voilà que Ferdinand Piëch, enfin le président de Volkswagen, comme Volkswagen tend à devenir le premier constructeur mondial d'ici 2-3 ans, il faut qu'il soit dans toutes les grandes disciplines. La seule grande discipline qui manque, quand t'es en WRC, quand t'es en WEC, est-ce qu'ils sont en WTCC?
Il y a Seat.
Enfin, Seat, c'est même pas officiel, Seat.
Mais ils y sont, puis il y en a encore qui roulent, quoi, donc ça va.
Ouais, il y a encore des Seat.
Il y a que la F1. Et ils avaient l'air intéressés par le moteur.
Ils étaient intéressés par le 4 cylindres, c'est même, on dit même que c'est par rapport à eux qu'on avait fait le 4 cylindres. Et finalement, ça a été changé, donc est-ce qu'ils sont toujours autant intéressés par le 6 cylindres? Ça reste à voir.
Je sais pas, ça. Mais en même temps, c'est vraiment quand tu vois ce qu'ils font en WRC, bon, WRC, la concurrence n'est plus, enfin, mais ils mettent les moyens, quoi. Ils sont arrivés au Mans, ils ont gagné, ils sont en WRC, ils gagnent. Donc l'idée de les voir en F1, ça peut, tu vois, il y a un attrait, quoi.
Après, il y a aucun bruit qui fait état comme Honda d'une arrivée.
Ça va revenir.
Ça ressort
régulièrement, mais c'est vrai que Honda a quand même l'air beaucoup plus sérieux que.
Et puis plus avancé.
Que le groupe Audi. Oh non, je pense qu'Honda on va avoir une annonce. À mon avis, ils vont essayer de mettre poisson jusqu'au 2 décembre. Ils ont un truc à annoncer ce jour-là au niveau du sponsoring. Ils vont peut-être essayer de coupler les deux, quoi.
Tiens, question sondage. Donc, c'était il y a déjà deux, trois, oui, il y a trois semaines. On vous avait demandé quelle était l'actu principale du SAV qui passe de la Formule E au Shadok. Je l'ai moins bien fait cette semaine, la Formule E.
Ah oui.
Ah oui. C'était, ouais, hein.
Ouais, c'était moins bien, là. C'était moins bon.
Vous avez été 53 à voter. Merci, comme d'habitude. Seulement 4 votes. L'officialisation du calendrier 2013 et la création d'une commission de pilotes. Bon. 6 votes, Canal+ dévoile son dispositif pour la couverture des Grands Prix. Ex aequo avec 10 votes, on retrouve Red Bull qui ne retiendra pas Vettel contre sa volonté. Il est beau cet intitulé, je te rends compte.
Il était à Nostradamus.
Et aussi McLaren avec Honda en 2015. Hein. C'est vraiment très très persistant quand même cette affaire. Et May est arrivé premier, 23 votes, 43,4%. La titularisation de Bianchi est subtile. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est surtout celle de Bianchi qui a compté. Même si Sutil a fait, en tout cas en Australie, un très bon Grand Prix.
Il aurait pu faire un bon Grand Prix en Malaisie. Hein. C'est l'équipe qui a eu des problèmes avec ses écrous, là, mais sinon, les Force India auraient pu faire une belle course.
Moins qu'on puisse dire un petit problème.
Enfin, l'avantage, c'est qu'on sait que le problème sera réglé pour la Chine. Si c'est encore présent en Chine, il faut qu'ils arrêtent.
Mais... oui.
Enfin, c'est dommage parce que on a souvent dit à raison que Force India commençait mal ces saisons. Là, ils ont une voiture qui manifestement est quand même meilleure que ce que l'est la Sauber, la Toro Rosso, même si la Toro Rosso est meilleure que celle de l'an passé, et surtout la Williams qui est encore à la traîne. Donc, c'est dommage qu'ils puissent pas capitaliser là-dessus pour une bêtise, parce que finalement, l'écrou c'est quand même bête. Quoi.
Passons maintenant aux actus dont on se fout, mais on dit qu'on s'en fout, mais on s'en fout pas tellement, hein.
On s'en fout pas tous, en fait.
Oui, bon, en même temps, même les actus principales, hein, on n'est pas tous à les citer, hein, faut bien le dire.
Ouais, puis on finit toujours par trouver un truc à dire, surtout.
Oui, oui. Alors, il y avait une actu que j'avais citée, et Gino aussi. C'était Vodafone qui ne sera plus partenaire de McLaren. Je l'avais un peu évoqué, hein. On sait qu'il y aura une annonce en fin d'année, hein. Alors, on parle forcément de Telmex, si Perez est encore là.
On a parlé de Gillette aussi.
De Gillette, oui.
Ah ouais, ça m'a plus étonné, ça, mais...
Mais pourquoi pas, hein, c'est
avec leurs nouveaux ailerons avant.
Oui, mais ils étaient déjà chez Williams, mais comme sponsor titre, c'est vrai qu'ils étaient, ils étaient présents, mais pas de façon excessive, dirons-nous.
Il y a eu Lotus aussi.
Oui, il y a eu Lotus avec Senna.
Ah oui, bah oui, Bruno Senna, oui, d'accord.
Ouais, Bruno Senna, ouais.
Je confonds, Quand on me dit Senna, je suis désolé, moi, je suis toujours sur Ayrton.
Oui, non,
il
sur
faut préciser
vrai,
la version B, ouais.
Il veut que le vrai.
Non, mais ils vont te sortir le nouvel aileron avant à 6 lames.
Non, mais moi, je pense que ça sera tel mec.
Mais déjà, est-ce que vous pensez qu'il y en aura un? Parce que, vous savez, hein, s'ils en trouvent pas un une année, c'est déjà arrivé, par exemple, entre West et puis Vodafone, justement, pendant un ou deux ans, et voilà, c'était juste Team McLaren-Mercedes, hein.
Oui,
et
puis sur les pontons, c'était Johnny Walker qui avait pris la place.
Oui, voilà.
En 2006, la voiture était très moche, d'ailleurs. Ce noir sur le gris, c'était vraiment pas beau. En 2006, c'était particulier parce que le contrat avec Vodafone, il était déjà signé,
oui,
on savait
voilà.
déjà que l'année d'après, il y aurait... Vodafone, donc je pense que pour 2000... Surtout s'ils ont déjà prévu de faire une annonce, ils ont pas prévu de rien annoncer.
Oui, donc c'est que, oui, s'ils ont prévu quelque chose, c'est qu'ils vont annoncer quelque chose. Ils savent quel nom aura l'équipe en 2015.
C'est ça, c'est pour ça que très sincèrement, je pense que Telmex...
Ou autre chose, ça peut être une surprise. Hein.
Oui, Carlos Slim, je suppose qu'il n'y a pas les intérêts que dans Telmex, donc... Maintenant, ils peuvent aussi avoir Gillette comme nouveau sponsor.
Oui.
Là, est-ce que ce soit un sponsor titre, je pense pas.
Et pourquoi pas? C'est une grosse société, hein, Gillette, hein.
Et je voulais dire aussi que propriétaire de Telmex n'a pas que des intérêts avec Perez. Il a d'autres pilotes, hein.
Ouais, il y a Gutiérrez chez Sauber aussi. Et puis, sûrement d'autres dans des catégories inférieures, mais
tout à fait.
Pourra peut-être sponsoriser Maldonado aussi, hein.
Non, mais il faudrait qu'il pense à sponsoriser des bons pilotes qui chopent pas le melon.
Parce que je regarde juste comme ça.
Perez avait du potentiel, mais c'est plus un melon qu'il a, c'est une montgolfière.
Gillette, c'est déjà une grosse boîte. Faut savoir que c'est une filiale de Procter & Gamble. Donc d'un truc encore plus gros au-dessus.
Bah, de toute façon, quand tu vois que, chez Lotus, tout ce qui est, c'est Unilever, donc pourquoi pas Gillette, hein, après tout,
Alors, dans le groupe Gillette, il y a Oral-B et Duracell, hein. Rappelons-le, hein, on sait jamais, ça arrivera peut-être sur la McLaren.
Un petit lapin sur la McLaren.
Un petit lapin.
concurrence et le cheval cadré. Hein.
Ça présage quand même, je sais pas vous, mais elle va quand même changer de livrée un jour ou l'autre, cette McLaren. Je veux dire, si dans deux ans ça s'appelle Gillette McLaren Honda, oui. On a du mal à croire qu'elle ait encore ses couleurs. Bah, déconne pas, c'est peut-être le nom qu'elle aura dans deux ans.
Elle sera bleu, rouge et blanc, quoi. Bleu, blanc, rouge.
D'ailleurs, petit coup de gueule quand tous les boulets qui font des livrées fictives sur McLaren Honda et qui la font blanche et rouge comme si c'était Marlboro. Blanche et rouge, c'était Marlboro, les gars. C'était pas Honda, ça a rien à voir.
Les vieilles Honda, dans les années 60, si je dis pas de bêtises, elles étaient blanches avec un rond rouge.
Oui, mais oui, bah oui,
parce que c'est pour le Japon. C'était les couleurs japonaises.
Oui. Ouais, bah oui. Mais c'est vrai que les McLaren Honda n'étaient pas blanches et rouges à cause de Honda.
Non, voilà. C'est pas pour
parce que c'était des McLaren.
Les McLaren Tag, elles étaient aussi blanches et rouges. Les McLaren Ford aussi.
Sont devenues. Mais de toute façon, oui, sur la livrée, le gris argenté n'aura plus de sens s'il n'y a plus Mercedes.
Bah, peut-être un retour le sponsor impose pas ses couleurs à la livrée orange. La livrée.
J'adorerais l'orange.
Déjà le rouge c'est le rouge de Vodafone. Oui. Donc déjà il pourrait dégager. Gris c'est quand même comme celui de Mercedes.
Oui, c'est vrai.
Après quand on regarde les couleurs propres de McLaren, il y a du rouge quand même. Donc ça pourrait rester, mais peut-être que ça passerait à du noir. Si vous regardez souvent la couleur du logo McLaren Automotive, le logo de l'écurie, c'est cette espèce de bidule là, rouge sur fond noir. Donc pourquoi pas
De toute façon, les voitures qui collaient le plus avec ce code couleur, c'était celle des débuts des années 2000. Même si le capot moteur était gris pour Mercedes, mais c'est vrai que les pontons, etc., avec l'époque West.
Oui, avec beaucoup de noir.
Ces voitures étaient superbes en plus. Il faut quand même celle de 2005 avec Raikkonen, la MP420 était splendide.
Pourquoi pas du orange, hein, parce que même on voit sur les MP4-12C et tout ça, il y a quand même pas mal de photos avec l'orange.
C'est la couleur historique.
C'est la couleur de la Nouvelle-Zélande.
Sincèrement, j'adorerais ça. Mais maintenant, Telmex, si je dis pas de bêtises, c'est bleu.
Ouais, c'est bleu.
Je vois pas comment ils vont intégrer ça avec de l'orange, quoi. Ça risque d'être des associations un peu douteuses. Mais c'est vrai que...
À moins que le sponsor soit orange.
bleu blanc rouge.
Ça pourrait être bleu blanc rouge, hein. Du bleu de Telmex, plus serait du.
Avec Romain Grosjean pour remplacer Button.
Ah, ceci dit, ouais, dans le drapeau britannique, il y a les trois couleurs aussi, donc il pourrait garder Button.
Mais Button, il est comme Weber, hein. Quand Weber sera à la retraite à la fin de la saison, c'est Button le plus vieux, il me semble. Hein.
Ouais, il a quoi, 2 ans de moins? 1 an, 2 ans de moins? Button.
Ouais, il a mon âge, c'est encore un petit garçon. Hein.
Allez, passons à une autre actu. C'est encore une actu. Normalement, c'est la dernière. Allez, je vais pas vous dire promis parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Canal. Alors,
c'est moi qui l'ai mis.
T'es pas le seul.
Ah, je suis pas le seul.
Il y a Fab aussi, c'est pour ça.
Bon, hein. Moi, je vais boire un café à ce moment-là.
Hein. Hein. J'ai mis à contre-cœur parce que j'avais franchement rien d'autre à mettre.
Nous, on a beaucoup parlé de Formula One, des retours spéciaux. Peut-être qu'on peut évoquer les spécialistes F1.
Non, il y a la pluie.
Non mais il était invité. Il sera pas là toutes les semaines. Même si c'est vrai que quand j'ai vu la fiche, je me suis dit en fait ils ont juste repris tous les gens de TF1 chez Canal, sauf Malbrock.
Ah et sauf Denis Brognard.
Il y a pas Marion non plus.
Donc les spécialistes F1 qui étaient plus en conformité à ce que nous on attendait. Voilà.
Oui. Voilà. Alors, plus que Formula One,
ressemble...
Alors,
dans le format, c'était classique, dans le sens où ça ressemblait beaucoup à ce qu'on avait connu avec Dimanche F1, Autocritique, mais aussi beaucoup aux spécialistes, hein, parce que globalement, toutes ces émissions du même type se ressemblent, hein, c'est avec le présentateur et les chroniqueurs autour de lui. Donc,
En fait, ils ont tout copié du SAV, c'est ça que t'essaies de dire.
Mais complètement. Mais tout le monde nous pique des trucs, Lotus nous pique des trucs, les spécialistes Stéphane nous pique des trucs.
On a la même table, hein, je veux dire.
Et d'ailleurs, je voudrais le dire, puisque Dino n'est pas là ce soir, mais si les personnes de Canal+ nous écoutent, Dino et Shinji sont disponibles pour participer à une de leurs émissions des spécialistes.
Mais les chroniqueurs
quand
ils
veulent,
aussi
ils
sont
totalement
disponibles. Enfin, je ne sais pas pour quel terme, hein. Mais...
Personnellement, écoute, moi ça dépendra du chèque, hein, personnellement. Après tout est possible.
Donc là c'était présenté par Thomas Sénécal, qui moi j'ai trouvé était plutôt pas mal ce qu'il présentait, mais en même temps justement il n'hésitait pas dans sa présentation aussi à donner un peu son avis, hein, il n'était pas là juste pour présenter les plats, passer les plats, comme il l'est un peu quand même sur les retransmissions, faut bien le dire. Donc là quand même pour ce premier Grand Prix, on avait Julien Febvre, Frédéric Vasseur, Paul Belmondo, Jacques Lafitte,
Bollaru.
Oui, et j'en oublie un, le dernier.
Ah bah, Jules Bianchi.
Ah oui, Jules Bianchi. C'est vrai qu'en même temps, il a dit 4 phrases, et c'était que des phrases super convenues, parce que bon, il est pilote de F1, donc il peut pas se froisser ni avec ses futurs employeurs, ni avec ses futurs coéquipiers.
Et qu'il a l'attaché de presse qui la regarde d'un œil.
Oui.
D'un œil noir derrière les caméras.
Oui. Non mais sinon c'était bien, c'était conforme, voilà, pour des gens comme nous qui suivons la F1 et qui s'y intéressent. C'était quand même beaucoup plus intéressant que Formula 1, même si Formula 1 c'était quand même amélioré quand même sur cette deuxième, sur la deuxième émission.
Ouais, c'est sûr, c'était mieux parce qu'il y avait les énormités en moins, il y avait moins de problèmes, la grille qui, d'ailleurs, ils ont enlevé l'histoire de la grille qui défile avec leur animation, ça a disparu. Il y avait pas les erreurs entre ça et les pneus intermédiaires qui étaient devenus blancs, enfin, des trucs comme ça.
Ou gros gens espagnols.
Oui.
Donc ouais, les spécialistes, bien quoi, 19, donc c'est à 19h30, ce sera donc 19h30, le mercredi après les Grands Prix. Il n'y avait pas eu pour l'Australie malheureusement, mais normalement, puisque lorsqu'il y aura comme ça deux Grands Prix sur une semaine, théoriquement c'est Margot Laffitte qui doit le remplacer. Donc normalement on doit avoir des émissions même quand il y a deux week-ends de Grands Prix qui suivent.
Et c'était très bien, hein, c'est une bonne émission de débat, chacun avait son avis.
Le mercredi, voilà, c'est parfait. C'est la journée débat. Vous regardez les spécialistes F1, vous écoutez le SAV de la F1, c'est génial.
C'est de la culture générale, hein. N'hésitez pas à le faire tourner auprès de vos amis, ça les rendra plus intelligents, plus beaux et plus forts.
Et de bonne humeur aussi SAV. En plus. Oui. Alors, je sais pas pour les spécialistes, mais pour le SAV, ça me met de bonne humeur.
Et ça baisse les risques de maladies cardiovasculaires.
Voilà. Et ça peut guérir de certaines maladies, mais bon, les médecins veulent pas encore homologuer ce truc-là parce qu'ils veulent pas noyer dans la masse les pauvres.
On essaie de déposer un brevet en Inde, mais ils sont un peu chiants de ce côté-là, donc.
Sinon, on a Lotus qui laisse la porte ouverte à Kubica.
C'était pas un poisson d'avril, oui, ça.
Kubica, il pourra pas la refermer, la porte.
En non.
Il marche pas mal en ERC. Même si moi, je crois toujours pas qu'ils sont à revenir en Formule 1, c'est, enfin.
Elle est adaptée, sa voiture, en ERC.
Honnêtement, je sais pas. Je sais pas.
Il semblait avoir lu ça après, je suis pas sans sûr, mais. Parce que adapter une voiture de ERC, à la limite, ça doit être autorisé, mais adapter une voiture de F1.
Non, mais c'est même plus une question d'adaptation, c'est la question physique qui pose problème.
Oui, c'est pour ça que je dis que même si il a l'air de bien performer en ERC, je pense que la F1 c'est définitivement mort. Mais même si sincèrement on peut regretter de son accident de 2010, ce qu'on peut pas s'empêcher de penser à ce qu'il aurait pu faire au volant de la Lotus,
ah, oui.
Parce que ce type a un foutu talent, donc.
Mais moi je trouve qu'il y a le même problème qu'il a eu dans l'année de son accident, c'est qu'on sait pas où il en est en fait. Il nous dit ouais je vais bien machin, mais en fait on n'a pas de détails sur comment fonctionne son bras, comment va son bras.
On
peut pas se faire
une idée. Il y a du progrès, c'est-à-dire que voilà, il est en ERC.
Non, mais
il y a de l'avancement quand même.
Ça, c'est indéniable. C'est très bien, mais il veut, enfin, je sais pas, il insiste sur le fait que oui, la F1 machin, mais en même temps, on sait pas où il en est, quoi.
Il a fait des essais en DTM aussi. Là, je pense que sa voiture n'était pas adaptée. Hein. Donc ça, je suis sûr qu'il roulait sur une voiture normale. Et il a fait des belles perfs. Mais là, de nouveau, on a que des oui dire si on peut dire, parce qu'il y a pas de chrono. On sait juste qu'il a fait des bons chronos, mais on sait pas lesquels. Donc c'est un peu.
Le vrai débat, en fait, c'est que on parle beaucoup. Enfin, on parle de plus en plus et les femmes dans la F1. Moi, j'oserais dire, pour reprendre une expression d'un très bon ami à moi, et la Cotorebe dans tout ça, quoi. Eux aussi, ils ont leur place. Ils peuvent venir en Formule 1 et Kubica sera un élan majeur.
Tu te suggérais qu'il faudrait qu'on autorise les handicapés en Formule 1.
Oui, c'est
mais
ça. Je l'aurais pas dit sous cette forme. Oui, je l'ai.
Donc 5 minutes. Hein. Bah, on va passer à la suite. Hein, c'est 5 minutes. Hein. Qu'est-ce que m'a raté Elder
Et merde.
Eh bien, Elder, tu vas rater une révélation puisque les avantages de Ferrari dans les accords Concorde, vous savez qu'ils existaient quand même, hein. Mais maintenant, ils sont connus.
C'est quelque chose qui n'a pas eu beaucoup de retentissement, qui est apparu ce mardi sur le site pitpass.com. Ils se sont procuré une brochure qui avait été éditée en mai 2012 et qui était destinée aux actionnaires, aux futurs actionnaires à l'entrée de la F1 en bourse. Ça, c'est pour Steph Corr. Et donc, quand on rentre en bourse, il faut absolument détailler le fonctionnement de son entreprise. Et donc, du coup, il y a tous les détails de tous les contrats de toutes les écuries, et notamment celui de Ferrari. Et donc on sait maintenant quels sont tous les avantages de Ferrari qui ont été accordés par la FOM et la FIA. Donc dans les détails, il y a un fonds de 100 millions de dollars qui est réservé aux trois écuries les plus victorieuses sur les quatre dernières saisons. Donc dans ce classement, Ferrari est les troisièmes, donc ça fait minimum 30 millions de dollars qui rentrent dedans. Donc, du coup, McLaren et Red Bull touchent plus. Il y a un fonds spécialement réservé à Ferrari qui est de 62,2 millions de dollars. Rien que ça, ça fait une centaine de millions de dollars sans rien faire pour Ferrari, ce qui fait à peu près le budget, ce qui fait même plus que le budget de Marussia, par exemple. Il y a surtout la possibilité pour Ferrari de quitter la F1 sans être dédommagée si elle n'a pas le droit de veto sur règlement technique. Donc autrement dit, tant que pour que la FIA s'assure de la présence de Ferrari, elle lui donne des prérogatives sur le règlement. Quoi. Si un jour Ferrari n'a plus la possibilité d'influer sur le règlement, Ferrari peut dire bon, on s'en va et vous avez rien à dire là-dessus. Parce que le problème de Ferrari, c'est que c'est une société qui s'engage en Formule 1 sans avoir de filiale, en fait. C'est vraiment Ferrari qui s'engage et pas comme Mercedes qui a une filiale qui utilise une filiale pour entrer en F1. C'est l'écurie, l'entreprise de l'écurie est pas la même que l'entreprise du constructeur. Donc du coup, si Ferrari s'en va, quand Ferrari s'en va sans raison, la F1 peut attaquer Ferrari pour préjudice d'image, tout ça, quoi, et demander des dommages et intérêts. Donc pour se prémunir de ça, ils ont été obligés d'accepter ça, quoi. Après, il y a des trucs un peu plus légers, parce que quand même un veto sur le règlement, c'est un avantage que les autres écuries n'ont pas, quoi.
C'est énorme.
C'est assez énorme. Il y a d'autres trucs plus petits, genre si jamais la Porsche Super Cup doit être annulée ou ne plus avoir lieu, c'est Ferrari qui a la priorité pour remplacer les Porsche.
Et la Ferrari Super Cup, ça vous intéresse pas?
Oui, c'est ça. La Ferrari XX. Et le dernier truc, c'est par rapport à Montez Zemolo personnellement, qui aurait une option de 0,25% des parts de la F1, ce qui est pas rien parce que c'était plusieurs milliards qui étaient en jeu. Et une position dans les comités dans plusieurs comités de l'entreprise de la F1. Enfin voilà, ça fait quand même beaucoup, quoi.
Mais c'est vrai que sur le favoritisme, il n'y a pas grand chose de neuf sous le soleil. On sait que Ferrari a un statut particulier.
Je confirme, hein.
Bon, après, le fonds de 60 millions comme ça, ça fait rêver, quoi. Tu te dis quand même, il pourrait lâcher un peu Zigato pour la 11e équipe quand même. C'est un peu dégueulasse.
Ouais. Marussia, ils doivent en rêver la nuit, mais après, il y a des trucs complètement sur l'aspect technique, ça peut prêter à sourire parce que ces dernières années, j'ai pas l'impression qu'ils aient eu grand avantage de ça. Sincèrement, c'est un truc qui moi personnellement me dérange parce que les équipes soient rémunérées au mérite, c'est logique. Ça peut créer une certaine, enfin. C'est normal que toutes les équipes ne reçoivent pas la même somme à la fin de la saison. Il y a une prime à la victoire, etc. Maintenant, si Ferrari termine dixième. Elle ne mérite pas d'avoir plus que les revenus de la dixième place. Je trouve ça insensé de dire parce que c'est Ferrari. C'est vrai que Ferrari, Formule 1, enfin, c'est synonyme.
Oui.
On est bien d'accord. Mais est-ce que c'est une raison pour favoriser d'une certaine façon Ferrari? Je suis pas convaincu, quoi. Ce genre de document sortirait à une période comme l'époque de Schumacher, ça ferait beaucoup plus de bruit, je pense.
Après, le truc, c'est que...
Parce que l'époque Ferrari dominait et que, ceci dit, je pense que de tels accords existaient déjà à l'époque, mais c'est pas nouveau. Mais
ça a été, c'est vrai que ça a jamais été public comme ça.
Mais tout le monde s'en doutait.
Ouais, c'est vrai que dans le détail, c'est assez impressionnant.
Tout le monde s'en doutait de ça, finalement. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a des chiffres précis, puis on a des trucs, voilà, le coup de, oh bah, si Porsche dégage, Ferrari est prioritaire pour faire une Super Cup, en gros, ouais.
C'est... En même temps, c'est un peu, il n'y a pas que pour Ferrari, on l'a évoqué tout à l'heure, Williams a eu des avantages aussi financiers, pour avoir foutu Adam Pardor, et pour pouvoir rester en F1 et signer les accords Concorde. Il y a des petites magouilles, à gauche, à droite, je suis persuadé que deux équipes ont d'autres avantages, mais,
Est-ce que c'est que très sportif
ce...
tout ça?
Que ce soit voilà. avec Ferrari ou avec une autre, je trouve pas ça normal. Que les équipes aient plus parce qu'elles ont des meilleurs résultats en piste, oui. Et il y a une... enfin, c'est normal. C'est le sport. C'est au bout d'un moment, faut qu'il y ait un... Si tu termines premier ou dixième, t'as la même récompense, c'est inutile. Y a pas de. Mais il y a des trucs, tu sens qu'en coulisses, y a des trucs qui se trament, mais voilà, c'est les aspects que moi dont j'aime pas.
Ah, c'est assez sombre. Et c'est d'un Ferrari ce qui vous dit ça.
Voilà, c'est pas. C'est vrai que Ferrari, c'est la Formule 1, mais est-ce que c'est une raison pour que. Enfin, c'est de la Formule 1, c'est un synonyme de Formule 1. Quand tu parles Formule 1, tu penses Ferrari. Quand tu penses Formule Ferrari, 1. Tu penses Formule 1. C'est des trucs qui vont ensemble. Même pour les gens pour qui la F1, ça leur dépasse au-dessus.
F1, Ferrari, pas de Monaco.
De Vettel, ils savent pas qui c'est. mais c'est ça, il y a des gens pour qui Vettel, ça veut rien dire. Et quand tu leur parles Ferrari ou F1, bah, ils tiltent, quoi. Mais bon, est-ce que ça justifie tout
Ouais, mais ce sport, ça s'appelle la Formule 1, pas la Ferrari 1.
Allez, on va finir par la cinquième actu dont on se fout, avec une question, un vrai débat que pose Fab. Attention.
je m'assois au fond de ma chaise.
Oui, asseyez-vous.
L'émission va durer 3 heures, rien sur cette question.
Poisson d'avril, peut-on tout se permettre?
Oui, alors...
Visiblement non.
Quand je lis que Weber quitte Red Bull et est remplacé par Schumacher, non, on ne peut pas tous permettre, messieurs, non.
Alors, on ne parle pas de ta
un peu de sérieux, voyons.
Non, mais les mecs, apprenez à lire les articles jusqu'au bout, bordel.
Pour commencer.
Il est quand même marqué 100% poisson d'avril, quoi.
Non, sincèrement, moi, je peux comprendre que certains aient trouvé iris jaune.
Oui.
Parce que, voilà, c'est vrai que, il y en a beaucoup qui, d'ailleurs, les audiences le montrent, les audiences de Canal sont plus faibles que celles de TF1, ce qui est logique. C'est pas une critique du tout envers Canal, c'est logique. Et que certains ne se sont pas payés abonnement pour X ou X raisons. Donc, c'est vrai que, en lisant le titre, ils ont pu se dire, ouais, et puis, pouf, ascenseur émotionnel. On peut comprendre. Maintenant, il est quand même bien spécifié, en bas de l'article, effectivement, que c'est un poisson d'avril. Cette date est quand même la date où on sait qu'on peut lire tout et n'importe quoi et qu'il faut quand même faire super gaffe. Donc, au bout d'un moment, voilà, que certains...
En plus, c'est marqué dans l'article.
La blague
c'est
moyenne.
C'est pas comme si c'était pas marqué.
Oui, mais c'est ça.
Voilà, il pouvait y avoir un doute.
C'est
non,
ça,
c'est
quoi.
Marqué, l'année, quoi.
L'année prochaine, il faudra le mettre en rouge, encadré, souligné, clignotant.
Tu le mets dans le faudra titre, le mettre, quoi, l'année prochaine.
Dans le titre. Dans le voilà, exactement.
Tu le mets dans le titre, poisson d'avril, ouais. On va vous faire une blague.
Eh, je me permets de rappeler que la meilleure blague de tous les temps au niveau des poissons d'avril a eu lieu cette année. Je crois que c'est la BBC où, sur un de leurs blogs, il y avait écrit, la Terre a explosé en tuant tout le monde. Ouais.
Mais
c'est bien.
Eu
nous, en Belgique,
oui,
ont...
en Belgique.
Oui, mais non, mais c'est même pas ça. C'est que nous, en Belgique, on a. Oui, il y a eu un poisson d'avril, apparemment. Je l'ai pas vu, mais. Enfin, j'en ai entendu parler vaguement.
D'Ambrosio sera dans la Lotus dans 15 jours.
Non, mais ils ont ressorti le vieux poisson d'avril de 72.
Oula.
Qui était. On ne pourra plus fumer dans les.
Ah oui, publics. Oui, ils l'ont montré.
À l'époque,
c'était un poisson d'avril à l'époque.
Comme ah merde.
Quoi, mais oui, il y a eu un poisson d'avril sur la F1.
C'était Bruxelles, oui, il va organiser un Grand Prix de F1.
Ouais, c'est la Libre Belgique qui a fait ça. Ouais.
Ce serait énorme.
Mais il y avait un Grand Prix de Bruxelles avec des vieilles avant-guerre, je crois.
Au pire, ils peuvent postuler pour la Formule E.
Oui, c'est vrai. Ah, tu le fais bien.
Il y a il y avait l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais pas si ça se fait encore, un événement historique autour du Grand Prix de Bruxelles.
Ce serait peut-être plus intéressant que la Corée du Sud.
Qu'est-ce qui est moins intéressant
de toute façon,
que la
qu'on
Corée
va
du Sud
C'est pas grave, la Corée du Nord va s'en occuper.
Oui, c'est ça, on reparle un peu de Bahreïn en ce moment, parce que dans le petit monde de la F1, parce que on va normalement devoir y aller, et que l'ambiance n'est toujours pas exceptionnelle.
Vrai.
Mais et la Corée du Sud Bon, d'accord, c'est quoi, c'est fin septembre, début octobre, on a encore un peu le temps de voir, mais est-ce que le pays existera encore, tu vois? On aura peut-être un gros trou, l'océan sera peut-être monté.
Ouais, enfin, le problème, c'est que si la Corée du Sud n'existe plus dans 6 mois, il est pas sûr que nous aussi, on existe encore dans 6 mois.
En tout cas,
c'est
en
un
tout
petit
cas,
logisme.
Mais au-delà de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, je me permets de vous remettre la situation géographique. Le voisin le plus proche de la Corée du Nord après la Corée du Sud, c'est la Chine, et on y est dans 15 jours, hein, donc...
C'est vrai.
Et le Japon n'est pas très 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 loin, et le Japon, ils sont pas très très copains avec les Coréens du Nord non plus.
Et
hein,
j'ai vu qu'ils avaient des problèmes sanitaires à Shanghai aussi, problèmes de grippe aviaire ou je sais pas quoi.
C'est beau ce championnat 2013, dis donc.
Et hey, attends le 2014 avec le Grand Prix de
c'est
Russie sous la neige.
C'est Bernie qui s'arrache ses cheveux à avoir mis tous ces Grands Prix à l'étranger. Hein.
Elder, il y a pas de neige à Sochi. Ils vont devoir la fabriquer.
C'est ah ouais, mais au mois de novembre, par contre, c'est cool d'avoir un deuxième Grand Prix de Malaisie, quoi. Donc voilà, c'était tout pour les actus dont on se fout, alors. Mais c'est comme...
Un jour, faudra quand même, juste pour qu'on limite la durée des actus dont on se fout, parce que
c'est... Mais, vraiment... je les ai limités, hein.
Mais non, mais le temps de parole à louer, tu vois, on a ça limite pour...
À faire du... Attends, faire une sorte de speed news intéressante, pas intéressante, mais en mode speed dating, tu vois. Je m'en fous, il y a qu'un seul ta gueule dans l'émission.
Tu l'as respecté d'ailleurs.
C'est vrai, il
est revenu vite, moi.
Non, très bien. J'en ai profité pour aller saluer mes beaux-parents, pour dire à ma femme qu'elle était attendue avant la fin de l'émission pour donner son avis sur le cas d'Hébert Vépène.
Ah non, mais quand tu prends un ta gueule, t'as pas le droit de l'ouvrir même à tes proches, hein. Tu restes terré dans ton coin.
Alors messieurs, vous voulez proposer quel type de sondage cette semaine? Les actus principales, les actus dont tout sous, ou peut-être autre chose?
Le constructeur que vous voulez absolument voir en Formule 1. Non!
Le constructeur les couleurs, que vous ne voulez
non,
pas
les,
voir.
Non, les couleurs de la nouvelle McLaren.
Je vous rappelle qu'on a que 10 choix.
Tu fais plusieurs options. Ouais, bah les couleurs, tu fais plusieurs choix de couleurs possibles pour les
si la palette de couleurs de la future McLaren. Quelle couleur principale voulez-vous voir chez McLaren à l'avenir? Je mets les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, plus le noir, plus le blanc.
Ouais, bah ouais, pourquoi pas, non?
Hey, pas mal, YMCA, McLaren, Honda.
Pro mariage gay.
Voilà.
Ça peut être joli.
Le mariage pour tous.
Personne ne sait à quoi ça ressemble. Après tout, peut-être que eux ils trouvent.
Ouais, c'est pas mieux que le taupe.
Alors, il y a un dixième choix. Si vous voulez, je peux rajouter le taupe.
Mais taupe, parce que ils vont faire un peu plutôt l'autruche. Ils vont se mettre la tête dans le sable. Non.
Instaurons le deuxième ta gueule.
Ça, c'était vraiment mon mauvais.
Ouais, parce que, en fait, j'ai l'impression que depuis qu'il a eu son premier ta gueule, ils sont libérés, ouais. Tu vois.
C'est ça, en fait. J'attendais ce moment et maintenant je peux me laisser aller. Il est 23 heures. C'est bon, quoi.
Donc, comme sondage cette semaine, on va faire original, hein. Quelle couleur aimeriez-vous voir comme livrée pour McLaren à l'avenir? Hein, bien sûr, dans l'hypothèse, hein, d'un gilet McLaren Honda, hein, ou toute autre chose, hein. Donc, ou Telmex McLaren Honda, ou Oral-B McLaren Zytec, allez savoir. Tout est possible. Donc, vous avez
choisi
le jaune, l'orange, le rouge, le vert, le bleu, l'indico, le rose, le noir, le blanc et le taupe. Par contre, vous ne pourrez voter que pour une couleur. C'est la couleur principale, quoi. Hein.
Bah, tu peux pas mettre en...
Il n'y a pas trop de choix possible.
Mais non, après, ça fait plus... T'imagines le nombre de combinaisons possibles.
Bah, t'en sélectionnes 10. En fonction...
Mais non, c'est une couleur principale. C'est chez McLaren.
Ouais,
ils mettent une couleur principale. Ils vont pas mettre 46 000 couleurs sur un truc.
Ils font pas comme Renault avec ING.
Voilà.
Ah, ça, c'était...
Ou même Red Bull avec Infiniti, excusez-moi. Voilà. On va dire que je radote.
Mais elle est pas si moche, honnêtement, Infiniti. Sincèrement,
C'est vrai que ça fait un... Il y a un côté dégradé,
en fait,
tout ça.
Ouais, en fait, ça dépend de...
La lumière.
Du soleil, Mais oui, si t'as le soleil qui tape vraiment dessus, c'est avec le mauve ressort. Mais sinon, c'est pas si mal.
Mais si, on va passer aux citations.
Ouais.
Alors je vais commencer. En plus, j'ai tenu à prendre une citation qui n'avait pas de rapport avec les consignes. Parce qu'il y en a plein sur les consignes cette semaine. Hein, si vous voulez repousser les qualifications à dimanche matin signifie que je ne pourrai maintenant plus prendre un café sur la plage. C'est Jenson Button et quand j'ai lu ça, je me suis dit quand même, ils ont une vie difficile ces pilotes de F1.
Il en a des problèmes.
Ah, c'est triste quoi.
Il y en a qui bouffent des glaces pendant les
interventions. Boire un café. Prendre
un café
sur la
avant
de.
Le... Oui, surtout qu'il devait pas le boire tout seul son café, tu vois.
Bon, en même temps, il est anglais quoi. Il a le choix entre les plages de Melbourne et les plages de la côte anglaise.
C'est marrant d'ailleurs que ce soit pas un thé.
Oui, c'est vrai.
So British.
Monsieur?
J'en ai une magnifique de Brabham. Je tiens à remercier le site Classic Course parce que c'est un peu leur en-tête et quand je l'ai lu, ça m'a fait mourir de rire. Donc c'est classiccourse.hautefort.com pour le côté pub. Donc c'est une citation de Brabham qui dit « I remember when sex was safe and motor racing dangerous.
» Okay. Elle est pas mal cette citation, effectivement.
Moi je l'ai trouvée sublime cette citation.
Mais...
C'est pas mal.
Mais il l'a dit récemment.
Ah, on m'a pas dit qu'il fallait que ce soit une citation récente. Hein. Moi, je voulais une belle citation. Je recherche des belles. Donc voilà. Et je donne mes sources.
Moi, j'ai une citation d'Oscar Wilde.
Parce que j'ai toujours aimé la F1.
il a dit récemment.
Non, j'ai une citation de Mark Webber qui, après coup, est très rigolote.
Il a dit « Fuck off, Vettel !»
Il a plu, en tout cas. Non, il disait « Les voitures regardent depuis 3 ou 4 ans, c'est le jeu. Il y aura bien un jour où je m'arrêterai. » En réponse à tous les gens qui tournent autour de son baquet. Donc maintenant, je pense que bah, il va laisser les vautours faire leur affaire.
Ouais, si je, sincèrement, je pense qu'ils vont, ils sont arrivés à un moment donné à un point de non-retour. Quoi, ouais. Red Bull.
Et même d'après ce qu'il avait l'air de dire à la fin de la course, c'était pas forcément pendant la conférence de presse sur le podium ou dans la salle de presse, c'était interviewé par les journalistes dehors. Quoi. C'était beaucoup de choses me sont passées par la tête. C'est une deuxième citation. Beaucoup de choses me sont passées par la tête dans les 15 derniers tours. Sous-entendu, pas sûr qu'on me revoie en Chine. Alors ça a pas l'air d'en prendre le chemin. On a vu une belle photo d'ailleurs de lui sur Twitter, je crois, où il est pas rasé avec son chat.
Et en plus,
elle est vieille cette photo. Il l'a sur l'épaule.
Ouais, hein. Ouais, c'est une vieille photo.
C'est une vieille photo. Alors, ça, c'est une très vieille photo. Steph Korm l'a envoyé il y a plusieurs mois déjà celle-là.
Victime. Alors qui est le site on ne le citera pas.
Non, on ne le citera pas.
Mais c'est pour moi.
Non, il a dit qu'il partait. Son père a dit sur Sky que Marc partait en Australie quelques jours et qu'il coupait son téléphone pour se couper du monde. Mais sur la page Facebook officielle, soi-disant. Donc, je pense pas que ce soit lui qui la gère.
Non, mais son compte Twitter.
Son compte Twitter, il est magnifique parce que c'est vraiment, ça parle pas de F1, ça parle que de ce qu'il fait à côté,
même
c'est qu'il
est à côté. Ils font des échanges, c'est assez amusant.
Ouais, ça marche.
Ils sont dans le même délire. Et sur la page Facebook, donc, de Mark Webber, on voyait la nouvelle petite Renault de place électrique.
Oui.
Je crois que c'est la Renault Zoé, peut-être. Et il y a écrit en dessous aux couleurs de Red Bull et il y a écrit RB9 for Seb avec un petit clin d'œil. Donc oui, moi j'ai trouvé cette image très très drôle. Je sais pas qui gère ce compte Facebook, mais moi
après,
j'ai
rigolé. Après, s'il faut être derrière tous les sites qui postent à la moindre photo, il faut aller voir vérifier si le site est pas en train de t'entuber avec une vieille photo et machin. Il y en a un peu marre là. Hein.
Faut changer tes sites. Hein,
Non mais moi j'ai
moi je sais où t'étais pêché.
Oui, on sait.
Moi je fais pas ça pour m'informer. Justement, je regarde ce qui se passe parce que il fut un temps où j'étais rédacteur. Et donc c'est pour ça que j'ai tout j'ai un Google Reader avec il y avait une quinzaine de sites et donc je tombe dessus.
Tu vas pouvoir changer.
Oui, je crois que je vais faire un petit ménage et je vais pas en garder beaucoup. Enfin bref.
Et Ben ?
Non, moi ma citation c'était celle de Button. C'est pas une citation très originale, mais c'est le championnat est encore ouvert autant que je sache et il reste mon objectif. Voilà, après deux grands prix qui sont quand même passés moyennement, bien qu'en Malaisie il aurait pu faire un très bon résultat s'il n'avait pas eu son problème de roue mal fixé. Chez McLaren, ça devient quand même un peu récurrent. Hein. L'an passé, ils ont connu quelques bourdes dans ce domaine et ici, après le deuxième grand prix, ils recommencent. Donc, c'est vrai que la voiture avait quand même semblé avoir progressé. Ici, avant la Chine, ils vont avoir 3 semaines. Donc, d'ailleurs, ils espèrent avoir fait encore des progrès. Donc,
c'est un peu comme l'année dernière. Hein. Oui. Peut-être qu'elle a retenu malheureusement les mauvaises caractéristiques de la MP427. Qui, un week-end était super bien et l'autre week-end était complètement à la rue.
Oui, puis est-ce qu'ils n'ont pas changé leur système de suspension et que ça prend un peu de temps à comprendre, je pense que...
Ouais, mais remarque, on dit...
Mercedes aussi, ils ont un nouveau système de suspension.
Alors,
par contre, pour
alors
le coup, ils ont l'air de bien
le
maîtriser.
Parce...
Mercedes, c'est plus
alors,
à l'arrière,
non,
c'est
en fait,
ça
avant,
en fait,
arrière
oui,
et gauche droite.
C'est exactement ça, mais sauf que c'est pas du tout un système qui est neuf. Ils utilisent ça depuis 2011.
Ouais, c'est pas le système que l'Oda trouvait complètement stupide.
Non
et
mais
supprimé,
l'Oda,
ça,
hein. L'Oda, il y dit plein de conneries aussi lui. Hein.
Passons désormais aux répondeurs, messieurs.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
Et cette semaine, bah, on a eu pas mal de questions aux répondeurs, des questions écrites, mais aussi des questions sonores.
Waouh!
C'est nos premières, c'est ça?
Ouais. Alors on va commencer d'abord par l'écrit, hein, avec Victor, qui avait une double requête. Bonjour à tous, voilà, j'aimerais bien savoir ce que veut dire le fameux Multi 21 qui a été dit à la radio d'une des deux Red Bull pendant le Grand Prix.
Bah, tu remontes l'émission et tu auras la réponse, mon petit Victor.
Cela s'appelle une consigne d'équipe. Les consignes d'équipe depuis le début du sport automobile existent. Elles permettent d'avantager un pilote par rapport à un autre lorsqu'il y a plusieurs pilotes.
On va falloir discuter avec Dino, mais quand Elder est dans l'émission, faut un multi ta gueule.
Ah non, c'est pas juste, j'allais dire des trucs intéressants avec les consignes où t'avais Fangio qui avait le droit de prendre les voitures de ses coéquipiers.
Ou alors faut réserver son tagueule pour la toute fin, tu vois, parce que juste avant de
tagueule, mais c'est stratégique, retient. Hein. Voilà.
Ouais, c'est avant très mal joué. C'est très mal joué.
Mais bizarrement, j'ai assez vite compris que j'allais souvent manger du tagueule cette saison quand je serais là. Donc
déjà on peut dire voilà, hein, donc si c'est 20, on dit 21 mais c'est pas 21 en fait, c'est 2-1. C'est voiture 2 ouais. Devant la voiture 1. Et donc l'inverse, c'est 12, voiture 1 devant la voiture 2.
Ouais, c'est pour... Voilà, on gèle les positions, tout simplement.
C'est un code qui est même pas un code, en fait, tellement il est tout bête.
Mais c'est surtout qu'elles sont autorisées, les consignes, donc ils ont même pas besoin de coder.
J'ai un doute, le multi, ça fait partie de la consigne, ou c'est juste ce que dit Weber après, dans le sens, on t'a dit plusieurs fois 21.
Ouais, mais ça, il peut pas le savoir, ça. Lui, il entend que sa radio, il entend pas ce que dit la radio.
Oui, mais on a pu lui dire à la radio, oui, on a prévenu plusieurs fois.
Ils peuvent communiquer avec les deux pilotes en même temps, non?
Il me semblait qu'ils peuvent communiquer avec les deux pilotes et que les pilotes peuvent entendre les enfin, ils peuvent se parler l'un à l'autre.
Après, ce qui était rigolo, c'est que il y a eu des gens qui ont fait des recherches sur le volant de la Red Bull et il y a un bouton multi. Mais enfin, c'est pas un bouton, mais c'est un potentiomètre, quoi. Enfin, c'est un truc, un sélecteur, mais il y a pas 21 positions dans ce bouton, quoi. Donc c'est la preuve que ça a rien à voir avec un réglage de cartographie ou un truc dans le genre.
Et donc Elder, tu avais des consignes célèbres.
Ah bah écoute, je pense que la plus célèbre de toutes les consignes de toute l'histoire. Ah ouais. Fernando is faster than you. Do you understand my message?
Il y a aussi le let pass Michael for the championship.
Ouais, mais alors ça, tu vois, elle est célèbre, mais en fait, c'est celle de l'année d'avant. Il y a celle de 2002, on en a jamais entendu le message radio. Et on a entendu celle de 2001 parce que Barrichello il a quand même mangé deux fois de suite en Autriche quoi. Sauf que en 2001 c'était pas pour la victoire, c'était pour la deuxième place derrière Coulthard je crois.
Il y a d'ailleurs eu en 98 ou 99 un petit message de McLaren, c'était pas une consigne, c'était juste McLaren qui avait fait une boulette et qui avait demandé à Coulthard de lever le pied pour que Hakkinen puisse repasser devant lui parce qu'ils avaient fait une boulette au stand.
C'est 98.
Par contre, en 97, il y a eu une consigne le dernier Grand Prix, je pense. Hein,
oui.
Que ce soit Hakkinen qui gagne. Hein.
Celle-là, elle est pas compréhensible, par contre. Enfin, je sais pas pourquoi.
Mais en fait, moi, j'ai toujours lu que Coulthard en avait déjà gagné, je pense, en 97. Et Hakkinen avait un peu le moral dans les chaussettes.
Oui.
Que donc, c'était plus pour service rendu et essayer de lui rebooster un peu le moral.
Ouais.
Pour la laisser faire gagner dans la dernière
course. Bah, ça a bien marché, visiblement.
Concrètement, oui. C'est plutôt pas mal marché. Et en plus, pour McLaren, il n'y avait aucun enjeu particulier pour l'équipe à ce niveau-là.
En plus, ils étaient vraiment pas sûrs de la gagner, celle-là, parce qu'ils passent... Villeneuve, c'est marrant, il a tellement voulu assurer le titre à ce moment-là.
Villeneuve, il les a laissés tranquilles.
Il a laissé quasiment tout le monde passer. Il a failli finir cinquième parce que Berger, il a fini même pas à un dixième juste derrière.
Ouais.
Et donc, dans les consignes des écuries, ce qui s'est passé entre Vettel et Weber, c'est pas non plus une première. Parlé en début d'émission, il y a eu, exactement la même chose entre Villeneuve père et Peroni, si je me trompe pas, où Villeneuve devait gagner le Grand Prix et sur le dernier tour, il se fait dépasser et, d'ailleurs, Fiston a clamé au effort dans les médias que peut-être que cet épisode n'était pas étranger au décès de son père 15 jours plus tard. Il y a eu quand les consignes étaient cachées, par exemple, enfin qui devaient les coder, tu avais les panneauteurs selon où est-ce qu'il te mettait ton chrono, tu savais si tu pouvais passer le gars qui était devant toi ou pas aussi. Aussi loin qu'on regarde le sport automobile, il y a toujours eu des consignes. C'est devenu, je pense, peut-être beaucoup plus important avec le côté très important de l'argent qu'il y a eu depuis le début des années 80. Donc là, les écuries, effectivement, entre avoir une première et une seconde place pour l'écurie ou avoir un pilote qui qui est premier ou deuxième, il pouvait y avoir un choix assez drastique.
Oui, puis je pense qu'à une époque, c'était admis. On a évoqué tout à l'heure des cas où Fangio récupérait la voiture de son équipier. C'était admis, ça, tu vois.
Ouais.
Aujourd'hui, je pense que ça allait beaucoup moins et que l'Autriche 2002 a marqué beaucoup de gens.
J'ai pas bien saisi à quel moment la FIA a voulu faire interdire ce truc qui est vieux comme le monde
Est-ce que c'est pas après 2002, c'est suite justement, à qu'il y a eu une réflexion après l'Autriche, maintenant c'est de nouveau autorisé. Les interdire, je veux dire, c'est complètement utopique.
Mais je pense qu'on est tous d'accord sur un point et je pense que même les concurrents de fanf1.com sont pratiquement tous du même avis, c'est que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui va être maintenant brisé entre eux, et la grosse bêtise de Vettel, au-delà de ramasser 7 points tout de suite, mais peut-être qu'il pourrait avoir besoin de Weber pour le reste de la saison à un moment donné.
Je pense qu'il peut oublier ça, clairement.
Il peut se toucher parce qu'à mon avis, Weber... déjà, mais on parle beaucoup de Vettel et Weber, mais
c'est peut-être même que le début de clash en série.
Ça peut lui couper.
Il reste 17 grands prix.
Ça peut lui coûter le titre, hein, clairement. Ouais.
Et ils ont un sérieux passif les deux là de rien. Ça fait depuis la Turquie 2010.
Avant la Turquie 2010, c'était déjà
gros clash. C'est bien là.
Oui, voilà. Mais il y avait déjà des antécédents. À mon avis, faut pas oublier Weber. Il était là bien avant Vettel. Et d'un seul coup, il voit ce jeune loup arriver dans la bergerie, lui voler la vedette, passer numéro 1 de manière plus ou moins officielle dès le départ. Le mec, il a juste l'impression d'avoir été le dindon de la farce. Donc, je pense que Weber a jamais beaucoup encadré Vettel. Tu vois, il l'a jamais beaucoup apprécié. Et peut-être que la Turquie 2010, c'était que le début révélé au public de la mésentente qu'il y a entre les deux. Hein.
Je pense pas que ça va aller en s'arrangeant.
C'est comme l'a dit Dino sur le dernier SAV, Weber, il a ce côté très, moi j'aurais pas dit politique, mais il sait utiliser les médias. Moi je me rappelle le Japon l'année dernière, après son accrochage avec Grosjean, où les mecs ils disaient tous dans la presse que Weber est rentré dans le motorhome de Lotus et qu'il a gueulé, qu'il a jeté des trucs par terre et machin.
Il aurait tort de s'en priver, hein. Actuellement c'est à son avantage, c'est lui qui a le beau rôle.
Et c'est pas forcément, j'étais tout à fait d'accord encore une fois avec Dino, c'est que c'est pas forcément le cas. Enfin, on en a parlé déjà au début de l'émission, mais c'est pas la belle au bois dormant, quoi, Weber. C'est un pilote, il est comme tous les autres, il a les dents longues, c'est un compétiteur. Et là, il a défendu sa place du mieux qu'il a pu, et ça a été une passe d'armes magnifique entre les deux Red Bull. Franchement, moi, à chaque virage, t'avais la tête de la course avait changé, quoi. C'était magnifique. Ça aurait pu très mal se terminer comme en Turquie, mais ça s'est très bien terminé. Moi, Vettel, dès le départ, enfin, je sais pas, dès son deuxième titre, hein, la saison où il a joué son deuxième titre, 2011, ça se voyait que le mec, c'était un, pas un gentil, deux, comme tout champion du monde, ou comme énormément de champions du monde, c'est peut-être les copains de qui tu veux en dehors de la piste, mais une fois qu'il a enfilé son casque, c'est tout pour sa gueule, et le reste, il en a rien à foutre, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, c'est des compétiteurs, c'est pas beau ce qu'il a fait, mais ça n'en reste pas moins des compétiteurs, et voilà. Mais on parle beaucoup de Vettel et Weber, donc je suis désolé Gus, hein, j'enchaîne sur Hamilton et Rosberg. Moi j'ai quand même eu l'impression que Rosberg, mais ça le démangeait Rosberg, et si à mon avis il n'y a pas un retour très rapidement, pas dans le courant de la saison, très rapidement, un retour sur investissement pour Rosberg, il va leur claquer un truc au nez aussi, et ça va être une double guerre. Et Dino va être très content, mais en fin d'année, on aura un duel Raikkonen, donc Shinji sera très content pour ça, un duel Raikkonen contre Alonso pour le titre, parce que les deux autres écuries, les quatre autres pilotes, ils se seront mis sur la gueule toute la saison. Hein. Donc c'est très dangereux, je pense que c'est extrêmement dangereux les consignes. À ce niveau-là, parce que les pilotes, ils ont des personnalités, tu vois, C'est pas, à part peut-être Pic, Charles. Oui, Charles, si tu nous écoutes, on t'aime beaucoup, mais c'est vrai que t'es un petit peu transparent quand même.
Donc déjà, on le recevra jamais.
Mais attends, le SAV, c'est pas de langue de bois, quoi. Quand on dit un truc, on dit un truc. Avant que Canal commence à diffuser les Grands Prix, par exemple, moi j'avais vraiment tapé dessus en disant, putain, Villeneuve, fais chier. Bon, on est à la deuxième, au deuxième Grand Prix, je dois reconnaître que, j'étais dans l'erreur. Pic, c'est sa deuxième saison, pour moi il est toujours transparent. Voilà. Il pilote bien ou mal, mais je le trouve toujours transparent.
Ouais, mais ça c'est parce que tu le vois en dehors de la voiture, mais une fois dans la voiture, ouais, c'est
dans
pas
la voiture,
ça.
Il est bien, oui. Hein. Il est pratiquement volant, là. L'an passé, il a fait du bon boulot. C'est vrai que quand tu le vois dans le paddock, tu le vois en interview, tu t'as du mal à t'imaginer que ce type est un tueur. Et il est loin d'être un manche au volant, quoi. Parce que Bianchi, qui fait des très belles perfs en début de saison, c'est que t'as pas l'impression non plus, quand pareil, tu vois en dehors de la voiture, que ce type est un tueur, quoi. Voilà, c'est nouveau, même à Vettel, je pense, quand il est arrivé, on aurait pas prédit qu'il allait... Voilà, c'est aussi le fait de leur jeunesse, et qu'il faut leur laisser un peu de temps s'affirmer, on va dire.
Alors, Victor avait une deuxième requête, mais on peut dire qu'il a pas de bol. Parce que sa deuxième requête, elle était pour Dino.
La seule émission que Dino loupe en 4 ans. Voilà.
Il voulait que Dino lui chante l'hymne italien.
Est-ce qu'on peut faire institution, peut-être?
Pour les deux tours de Fernando. On en a pas parlé, tiens, de cette stratégie incroyable.
Ouais, mais on a parlé la semaine dernière dans le SAV, les gars, c'est bon. Donc voilà. Donc, c'est noté, Victor. Je le rappellerai à Dino. Hein, pour que la semaine prochaine, il te chante l'hymne italien.
Il aura l'occasion de le chanter de toute façon dans l'année. Oui. Enfin, touchant du bois.
Mais dans un mag, voilà.
Mais il est obligé de chanter parce que là, il commence à refaire à peu près
de bruit. Non, alors, lui, ce que Victor veut, c'est Dino.
Ah, mais moi, si je chante, c'est carrément des tornades qui s'abattent sur l'Europe, hein. Donc, c'est pas pour
faut
ça.
Faut respecter
que
le choix de l'auditeur. L'auditeur, il veut Dino. Il faut qu'on lui offre Dino. Donc, la semaine prochaine.
Ah, j'imagine la scène, Dino sur une croix nue en train de chanter l'hymne italien.
Avec le costume de Leia, tu sais, dans Star Wars.
Les absents ont toujours tort. Hein.
Sinon, on avait la question de Falcon. Hello, l'équipe de Fan F1 et du SAV, voilà ma question. Lors du Grand Prix de Melbourne, il y a eu une panne de la télémétrie, elle continue d'ailleurs en Malaisie, qui a visiblement affecté tout le plateau de la F1. Ma question était la suivante. Que règle exactement la télémétrie, que ce soit sur les voitures et dans les stands, et comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucun moyen de réparer avant le jour J, car après tout, des moyens énormes sont employés pour la F1, et je trouve ça rigolo que personne ne soit en mesure de réparer ce système pour le Grand Prix.
C'est moi qui vais lui répondre, du coup. Mon cher Falcon, dans un cadre général, la télémétrie...
Falcon.
Oui. Oui, moi je suis pas Fab, je vais pas te faire l'éphémérite de ton prénom. Hein.
Falcon, viens du faucon.
Il vaut mieux un faucon qu'un vrai intelligent. Enfin bref, dans un cadre général, la télémétrie désigne un système conçu pour communiquer via une liaison radio avec un objet distant équipé d'instruments de mesure, avec lequel on peut éventuellement interagir à distance. En F1, la télémétrie permet de surveiller en direct le bon fonctionnement d'une monoplace qui est équipée de plusieurs centaines de capteurs, donc que ce soit des capteurs de température, de pression ou autre chose. Toutes les mesures sont envoyées à l'ECU, c'est un petit boîtier qui est fourni par McLaren. C'est une sorte de mini ordinateur qui rassemble tout ça et qui communique avec l'antenne qui envoie ça au stand pour que ce soit enregistré sur et affiché sur les ordinateurs de l'écurie. Théoriquement, la télémétrie peut marcher aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que le stand peut influer directement sur la monoplace en jouant sur certains réglages, que ce soit la cartographie moteur ou le différentiel, etc. Mais c'est interdit depuis 2003. Pour que le pilote soit le seul maître à bord de la voiture. En revanche, il reste un aspect de télémétrie dans ce sens-là par rapport à la FIA, parce que depuis 2007, il est nécessaire d'afficher les drapeaux sur le volant. Donc il y a des voyants jaunes, bleus et rouges sur le volant des voitures pour avertir directement les pilotes. Et depuis 2011, on a aussi la composante qui permet de gérer ou non l'activation du DRS selon les conditions météo. Et donc c'est cet aspect des choses qui n'a pas marché en Australie et qui était toujours pas réglé en Malaisie. Donc comme je disais tout à l'heure, le CU est fourni par McLaren Electronics depuis 2008, en collaboration avec Microsoft, hein, donc ça peut expliquer des choses aussi. Depuis 2008, où ouais, on a cherché à standardiser l'électronique pour des raisons de coût et pour supprimer les aides au pilotage, parce que ça devenait... En fait, les aides au pilotage avaient été autorisées en 2001 parce que la FIA avait aucun moyen de contrôler que les écuries ne développaient pas des trucs enfouis profondément dans la monoplace, genre des systèmes illégaux. Elle a préféré autoriser les systèmes jusqu'à ce qu'elle dise bon bah on va faire un boîtier unique. Déjà ça évitera des coûts de recherche trop importants et donc ça permettra de vérifier que tout se fait, tout le monde est soit logé à la même enseigne. Et donc il faut savoir que cette année, en 2013, le CU est un nouveau modèle qui a été développé avec en tête 2014, il y aura la nouvelle propulsion avec les V6 turbo et plus de systèmes de récupération d'énergie. Et le problème vient du fait que si on a pu tester correctement ce boîtier dans le sens voiture vers stand aux essais privés, comme la FIA regarde les essais privés d'assez loin, on n'a pas testé l'autre sens. Ce qui fait que le problème a pu être détecté qu'à Melbourne. Ils ont été confirmés par la FIA le samedi, et donc c'était trop tard pour les régler pour la course. Et une semaine de délai, c'était compliqué pour McLaren de régler le problème en une semaine. Par contre, si le problème est toujours là en Chine, on pourra se poser des questions, mais en attendant, de toute façon, le problème a été loin d'empêcher le bon déroulement des Grands Prix. À l'inverse, par contre, de celui qui a connu Weber, quoi. Ça lui a gâché son départ.
Alors ensuite, on a eu encore une autre question du SAV via le module audio.
Wow.
Et devinez qui c'est qui nous a posé une question.
Dino.
Non.
Oh bah Adelin.
Donc, on écoute tout de suite le message d'Adelin.
Salut à tous, cette semaine je vous propose une question un peu plus débat, qui est celle-ci. Après le premier Grand Prix, quel pilote verriez-vous gagner pendant cette saison et pendant quel Grand Prix? Salut à tous.
Donc Adelin, donc, qui a envoyé le message il y a 2 semaines, sur ça il ne parlait que de Melbourne, hein. Aujourd'hui on a 2 vainqueurs de Grand Prix, donc bah qui vous voyez cette année et... bah, déjà j'ai envie de dire, il y en a un quand même, Alonso.
Alonso.
C'est même du plus que du probable. Il va gagner une course cette saison.
En Espagne, ce serait beau.
Non, mais
il nous l'a déjà fait en Espagne. Faut qu'il l'enlève un peu.
En Chine, il sort un drapeau chinois.
Il sort une pancarte Free Tibet. T'imagines le tollé.
Non, ouais, Monza, il a encore jamais gagné avec Ferrari à Monza, je crois.
2010, non?
Il a gagné en 2010 avec Ferrari.
C'était un podium.
C'est possible.
C'était un podium, mais c'était pas. Je sais pas, mais je verrais bien aussi une Mercedes gagner à nous. Cette année.
Plutôt Lewis ou plutôt Nico?
Plutôt Lewis quand même. Ah.
Je pense que Lewis va être le premier.
Vous voyez plutôt gagner en début de saison ou plus vers la fin pour le coup?
Europe.
Moi j'aurais plutôt dire ouais
en
voilà on, pas trop loin dans la saison parce que peut-être que le développement va faire qu'après voilà ils ont plus la possibilité. Faut que ça soit quand même relativement rapide.
À Monaco peut-être.
Pourquoi pas ouais.
Ouais Monaco la voiture était pas mal. Je l'ai surveillé quand même un peu en Chine. Aussi en fonction de la température qu'on va avoir là-bas, parce que l'an passé, dans des conditions un peu fraîches, ils étaient pas mal.
Ouais, mais ça c'était dû à leur problème avec les pneus. Maintenant qu'ils ont semblent avoir amélioré ça, ils ont peut-être perdu cette qualité d'être bon sous
le frein. Ouais, mais c'est pour ça. Rien que pour ça, ce sera intéressant de les suivre, je pense. Mmh. Mais c'est vrai qu'à Monaco, la voiture était pas mal.
Mais j'imagine parfaitement que chez Mercedes, gagner un grand prix en Europe et le plus près possible de l'Allemagne et de Stuttgart, ce serait bienvenu, quoi.
C'est vrai que gagner au Nürburgring pour Mercedes, ce serait pas mal, mais...
Qui d'autre vous voyez, possiblement?
Un que j'aimerais bien voir gagner au moins une course cette année, c'est Massa.
Massa, ouais.
Mmh. Ouais.
Parce que son podium l'an passé, c'était quand même... Enfin, voilà, ça m'a fait plaisir parce que ça reste un pilote qui a quand même failli être champion du monde, c'est pas un manche. Il est pas de la carrière d'un Alonso, on est bien d'accord. Mais ça reste un bon pilote.
Là, ce début de saison, sur les 2 premières courses, il a quand même montré qu'il était revenu à un niveau...
S'il doit gagner, ça devrait plutôt être en début de saison. Parce que là, pour le coup, c'est
ouais.
Le championnat risque de faire qui, vers la seconde partie de saison, il aura plus l'occasion.
Ça aurait été symbolique une victoire en Allemagne à Hockenheim, mais du coup, comme c'est pas au calendrier.
Ouais.
Et Weber, malgré ce qui s'est passé, vous croyez qu'il a encore une chance?
Weber à Monaco, je mettrais encore plein de pièces dessus, moi.
Si Vettel n'est pas autour de lui. Hein.
Ouais.
Parce qu'après, il risque d'avoir encore des problèmes de, tu comprends pas pourquoi, de Kers et compagnie, quoi.
Et puis Weber en Grande-Bretagne, hein, il est quand même souvent bien.
Ah, c'est Grande-Bretagne et Monaco sur carte victoire principalement.
Mmh,
ouais. Ouais. Ouais.
Monaco.
Mais c'est vrai
ouais.
que s'il doit en gagner, je mettrais une petite pièce sur lui sur ces deux courses-là. Sinon, peut-être une première victoire française. La Lotus, c'est quand même pas mal.
Pardon.
Méfie-toi, elle est bien fort.
Moi, Romain Grosjean, j'adorerais que Dino et Shinji le reçoivent. Dans une émission spéciale, je serai aux anges, mais non, j'y crois pas. Même si cette année, ça va. Il fait son boulot, il fait pas de conneries, il est sage, il est, mais voilà, non.
Mais c'est vrai que sincèrement, bon, il y a eu Grosjean, la vitesse, on sait tous, il l'a. Maintenant, ce qu'il faut qu'il trouve, c'est de la constance. Sur les deux premières courses, il a fait zéro connerie. Ce qui pour moi est encore plus marquant par rapport à Maldonado qu'on a aussi tapé l'an passé pour ses âneries qui continuent à en faire. Que je suis désolé, c'est bien beau de dire que la voiture n'avance pas, mais il faut encore être capable de la ramener à l'arrivée pour pouvoir vraiment dire c'est la voiture.
Parce que freiner dans l'herbe, c'est quand même une erreur de débutant, quoi.
Ben oui, mais c'est ça. Et en Malaisie, t'as l'impression que le mec, il surconduit à mort, quoi. Non, non. C'est pas comme ça que t'as fait avancer les choses. Moi, je vois que derrière Bottas, c'est quand même un client plus sérieux que ce que n'était Senna l'an passé. Bruno, hein, pas l'autre.
La version B, toujours.
Donc, il faut qu'il fasse gaffe aussi, Maldonado, parce que derrière, il a un sérieux client. Donc, ses contre-performances vont être encore mises plus en avant si Bottas monte en puissance. Hein. Au bout d'un moment, il va même s'il a soutien de PDVSA, là, ça va plus être possible. Quoi. Donc, sur les deux premières courses, Grosjean a fait le boulot, donc s'il continue comme ça, et je vois pas de raison, si la Lotus s'avère effectivement compétitive sur le long terme, pourquoi pas.
C'est pas sûr que Maldonado garde longtemps son sponsoring maintenant. Hein. Pour l'année prochaine, c'est pas dit. Déjà que ça fait 3 ans deux ans qu'il nous saoule bien en disant « Ah, tous les ans, on réexamine ça, le gouvernement est pas d'accord, là maintenant le patron il est plus là, donc ça va être vite réglé aux prochaines élections, et l'année prochaine c'est à peu près sûr que moi je le vois pas, enfin tu vois, l'argent qui est investi sur Maldonado, ils peuvent équiper l'équipe olympique du pays, quoi, ils peuvent l'équiper deux
Puis
fois
ils
l'équipe.
Ils peuvent simplement le mettre sur un autre pilote hein, aussi. Aussi bête que ça, hein. Parce que pour le moment, il justifie pas l'investissement, Maldonado.
Il sponsorise en attention, parce que Maldonado, c'est le seul peut-être en F1, mais cette fameuse entreprise pétrolière sponsorise en GP2 et GP3 aussi. Hein.
Bah d'ailleurs, elle sponsorisait déjà Maldonado en GP2. Hein.
Et puis, il me semble qu'il y a le logo PDVSA sur la Marussia aussi. À voir si Rodolfo González n'est pas
Impossible. Oui, c'est vrai que González...
Sinon, González. Pour les vainqueurs, donc là, on a surtout parlé finalement des 4 équipes qui sont devant.
Ouais, mais en même temps, je vois pas vraiment quelqu'un
c'est
comme
surprise cette
saison.
C'est un peu tôt pour se prononcer, parce que encore une fois, on n'a pas vu des Grands Prix se dérouler dans des circonstances normales.
Par exemple, McLaren, on ne les a pas cités.
C'est vrai.
Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, peut-être
au jour d'aujourd'hui, non,
mais peut-être en fin de saison, ils l'ont déjà fait.
Fin de saison, peut-être.
En fin de saison, alors.
Ça dépend de comment se passent les prochains Grands Prix. Si vraiment ça continue mal, est-ce qu'ils vont pas se dire, bon, bah, 2013 c'est mort, on va tout mettre sur 2014 parce que tout change.
Ouais, c'est...
Moi, ce que je me demande, c'est 2014, est-ce que ça risque pas aussi d'être un peu une année de transition pour McLaren, si Honda ne vient qu'en 2015, parce que Mercedes, ils vont pas mettre tous leurs œufs chez McLaren.
Raison de plus pour soigner le châssis et pour prendre le plus possible de temps à se dire, on apprend pour le châssis, le moteur, bon bah, il sera ce qu'il sera, on n'aura pas toutes les infos, d'accord? Mais on va soigner notre châssis.
C'est vrai qu'en connaissance de cause,
on va soigner l'intégration du moteur, comme ça on saura comment faire avec Honda, on va soigner les systèmes de, remarque, c'est les systèmes de récupération d'énergie, ce seront ceux de Mercedes.
Est-ce que sur le plan sportif, ça risque quand même pas d'être une année.
Donc pour vous, au-delà des 4 équipes principales, faut pas espérer, à part peut-être McLaren, faut pas.
Oui, McLaren, je pense qu'il faut toujours compter avec elle. Maintenant,
plus de Sauber, par contre, par exemple, du côté de Sauber ou de Force India, faut pas
Sauber
non plus.
Sauber a pas montré grand chose.
Non,
finalement,
non.
Ouais. Sauber, ouais. Pour c'est vrai qu'il y a grand chose
quand
même. Il
y a Sutil en Australie qui a montré que peut-être, ouais. Sur un malentendu.
Franchement, Force India, pourquoi pas un podium? Une victoire,
voilà,
peut-être
ça,
pas, mais un podium.
Sauber, c'est un peu Jean-Paul Duss dans les bronzés, tu
ouais,
vois.
Ouais, ouais, bah oui.
Sauber, en Australie, ils sont roulés qu'avec Gutiérrez. Bon.
Oui.
On va pas taper sur Gutiérrez, mais son premier Grand Prix, on peut pas non plus attendre qu'il fasse des miracles. Le deuxième Grand Prix, bah, nouveau, il se dispute sous des conditions un peu particulières. On a vu que Hülkenberg a quand même mené un beau duel avec Raikkonen, qui a même fait râler Raikkonen, d'ailleurs. Donc voilà, moi, je pense que Hülkenberg est un très très bon pilote. La voiture n'est pas, parfaite. Elle est pas mauvaise non plus. C'est une Sauber. Voilà. Et donc, elle peut faire des belles perfs comme ils font souvent, mais est-ce qu'ils vont refaire la même saison que l'année passée? Je pense pas.
À mine de rien, ils ont plus Kobayashi, hein. C'est pas, même si Hülkenberg est là, l'année dernière, ils avaient un duo homogène au final. Parce que quand l'un était pas en forme, l'autre était,
ouais.
Généralement là pour faire un bon résultat.
Oui, ils avaient deux bons pilotes qui avaient des qualités,
ouais.
Différentes.
Ils étaient complémentaires.
Mais ouais. C'est vrai que voilà, chez Force India, on a ce Sutil qui
m'impressionne de plus en plus. Hein,
Et c'est même mauvais déjà pour Paul Di Resta, parce que le type, il s'est déjà fait griller la politesse chez McLaren. On le citait éventuellement chez Mercedes aussi. Là, s'il se fait allumer par un Sutil...
Alors moi, je voudrais dire aussi, dans les vainqueurs de Grand Prix, bon, je dis pas ça pour faire le cirage de pompe auprès de Jenny. Jenny, quand tu nous entendras, on t'adore. Mais si, moi, je vais être absolument crédible, et je dis pas ça pour avoir du café, donc, mais je verrai bien Bianchi, et je dis pas ça parce que...
En 2013
2002, elle est pas mal, celle-là, hein, ça vous a surpris, hein.
Dans les fins 2013, quoi, en fait.
Dans une de mes histoires.
Hein. Bianchi, quand tu le vois sur la Marussia, tu regrettes qu'il soit pas dans la Force India, quoi.
Ouais.
À la limite, un duo Bianchi-Sutil, ça
va
la gueule.
Donc voilà, Adelin, pour ta question. Et on a un dernier message. Un message de Zilex, qui n'est pas vraiment une question, hein, il faut bien le dire, mais vous allez voir, on vous laisse écouter.
Service d'apprendement de bonjour!
Hé, hey, vous me reconnaissez?
Non.
Mais si, c'est moi, dès qu'il pleut, je reporte tout à demain. Charlie Whiting? Oh oui, c'est moi. Oh là là, attention, Vettel, il pourrait être mouillé.
Alors d'abord, bravo Zilex pour le montage. Voilà.
Ouais, pas mal, ouais.
Super.
Merci Zilex. Voilà. Donc c'était à peu près tout pour les questions du répondeur.
Il a quand même oublié à la fin de son message, je suis super connard. Enfin, bien, pardon.
Et je me dis, tiens, en faisant une transition avec ce magnifique message de Zilex, si on faisait un pour pas pour la pluie en F1.
Pour.
Ah, tu veux faire le pour? Est-ce que quelqu'un veut faire le pas pour?
Bon, je veux bien, allez. Je retrousse les manches, là, vas-y.
Ladies and gentlemen,
en fait, je me rends compte que je me suis lancé dans le pour pas pour sans savoir exactement de quoi ça tournait. Non, mais j'ai déjà fait attaquer par la femme d'Elder, ça suffit, maintenant, on s'en démarre.
Ben, on te donne la parole pour commencer.
Bah oui, pour, totalement. Enfin, je veux dire, ça ajoute un peu de piment aux courses. Il y a certains circuits, quand il pleut pas, on s'emmerde. Et voilà, c'est quand même les 22 meilleurs pilotes du monde. S'ils savent pas rouler sous la pluie, qui rentrent chez eux faire des gaufres, quoi, tu vois.
Ben moi, j'aime bien les gaufres. Et c'est pour ça que je dis que, justement, quand il pleut, ils devraient s'arrêter, ils devraient prendre une glace, ils devraient faire ce qu'ils veulent. Parce que quand il pleut, c'est dangereux. Et quand il pleut, en plus, on voit pas la hiérarchie. C'est-à-dire, on sait quels sont les meilleurs pilotes. Mais là, on a eu deux courses perturbées par la pluie. On sait pas quelles sont les meilleures écuries. On sait pas quelle va être la hiérarchie. On est un peu plongé dans le noir. Et ça, je trouve ça dommage.
Ouais, mais justement, le fait que ce soit le pilote qui soit mis en avant, c'est une bonne chose. On se plaint toujours que la Formule 1 est devenue trop technique, trop basée sur l'aéro, tout blabla, que les performances dépendent avant tout de la voiture. Ici, ça gomme les défauts de certaines monoplaces, ça met vraiment le pilote à l'avant-plan, et c'est en général les meilleurs pilotes qui s'en sortent le mieux dans ces cas-là. Donc.
Mais c'est beau à voir, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que la Formule 1, c'est l'ombinaison pilote plus voiture qui pilote plus voiture qui prime. Si le pilote, si on veut que le pilote, il soit le seul à avoir les clés, on n'a qu'à faire une forme monotype, c'est pas ce qu'on veut.
Oui, mais en même temps, enfin, la voiture garde quand même une importance. Tu verras jamais une Marussia s'imposer, même sous la pluie. Sauf s'il y a plus que deux voitures en piste. Mais voilà, il faut quand même avoir entre les mains une bonne voiture. Mais si la voiture n'est pas la meilleure, tu peux réussir quand même à tirer ton épingle du jeu avec des conditions climatiques, en faisant le bon choix au bon moment. Par contre, c'est clair qu'avec une trapanelle, tu peux pas gagner même sous la pluie, mais le pilote regagne un peu plus, reprend plus d'importance que sur le piste sèche où là, il faut clairement avoir un très très bon matériel entre les mains.
Mais ça,
même s'il faut pas non plus être un manche au volant sur la
circuit. Ça c'est bien beau, mais il faudrait qu'on laisse les pilotes se battre sous la pluie. Le problème c'est qu'au moindre goutte, on arrête tout, on fait un drapeau rouge. Les pilotes, on attend que ça sèche, et quand on lance les pilotes, c'est déjà le moment de passer les intermédiaires. Donc avec des intermédiaires, c'est plus le même pilotage, et finalement c'est la voiture qui reprend le dessus, donc ça sert à rien au final. Autant faire les courses que sous le sec si on veut vraiment pas mettre les pilotes en danger.
Ou alors améliorer les pneus pluie en mettant des pneus comme il y avait à une certaine époque, des pneus on appelait des pneus moussons.
Est-ce que au niveau de votre débat, je voudrais juste
non mais ta gueule.
Mais oui, oui, ta gueule.
Non,
pour la pluie en F1.
Voilà.
J'ai quand même le souvenir que les plus grands champions de la Formule 1, que ce soit Senna en particulier et Schumacher, étaient des grands seigneurs sous la pluie et se sont révélés sous la pluie grâce à la pluie. Mais moi, c'était par rapport à la Formule 1 qui est censée être la Rolls Royce, le Ritz du sport automobile presque, je dirais. C'est que j'étais tombé sur une photo cette semaine sur Twitter qui m'a fait beaucoup rigoler, où tu voyais la différence entre la Formule 1 et le NASCAR. En NASCAR, ils ont des espèces de gros camions qui viennent avec des ventilateurs énormes pour assécher la piste.
C'est nouveau ça d'ailleurs.
En quelques minutes, et en Formule 1, ils ont des balais. Voilà. C'est vive la Formule 1.
Il me semble qu'en Canada, ils avaient déjà des...
C'est pour ça que, pour la pluie, c'est presque une évidence, mais à ce moment-là, il faut, comme je l'ai dit, vous allez dire si vous êtes d'accord ou pas, mais qu'on n'interrompt pas la course à la moindre goutte, parce que...
Bah non, oui.
Ça s'est déroulé à plusieurs reprises l'année dernière, pendant les qualifications à Silverstone, on a attendu longtemps que ça sèche.
Oui, il y a les départs sous safety car.
Oui, il y a ça et...
Ah, il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un départ sous safety car.
On a attendu longtemps que ça sèche, et au final, quand on a relancé je crois que c'était la Q2, au final, c'était assez sec pour passer en intermédiaire. On a attendu trop longtemps. Donc, qu'on interrompe pas quand c'est pas praticable, d'accord, mais qu'on interrompe pas trop parce que les pneus pluie existent, et quand c'est possible de s'en servir, il faut laisser les pilotes s'en servir. Et se battre avec dans les mêmes conditions. Ça empêche justement les écuries de fond de peloton qui pourraient faire de bons résultats dans ces conditions de performer comme elles le mériteraient.
Oui, par exemple en Australie, Vern était un peu déçu que la qualif n'ait pas été à son bout samedi parce qu'il avait clairement une carte à jouer parce que je pense que sa voiture marche bien sous la pluie. C'était déjà le cas l'année dernière, et que lui-même est très bon sous la pluie.
C'était roulable en plus dans les premières
heures. Oui, au début, ouais, oui.
Ouais. Par contre, ce qu'on peut souligner quand même, pour une fois que la FIA fait un truc bien, c'est que par rapport notamment à Silverstone l'année dernière, c'est qu'ici on a eu des infos, c'est-à-dire qu'on a vu. Je pense que c'était Charlie Whiting à la télévision qui nous a expliqué pourquoi il y avait l'interruption. Et c'est vrai, parce qu'on comprenait pas trop bien.
Vous en Belgique, vous avez dû le voir, mais nous on l'a pas vu parce qu'en même moment il y avait un duplex dans les stands pour Canal, il me semble. On l'a vu, mais on l'a pas entendu parce que dans le même temps parlait. Quoi.
Parce que même les commentateurs ont l'info. Je suis pas sûr que s'il y a pas ça, ils ont l'info. Donc ils peuvent quand même toujours la donner. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que voilà, on comprend pas toujours bien les décisions de la FIA. Bon, c'est vrai que s'il faut commencer à l'arrêter dès qu'il pleut, c'est un peu emmerdant, quoi. Ou alors, voilà, qu'on fasse comme aux États-Unis, qu'on décide que quand il pleut, on court pas, que ce soit partout pareil, mais il faut pas deux poids deux mesures, quoi. Même si je suis pas pour qu'on supprime la course sous la pluie, hein. Pour peu que ça joue pas sur leur sécurité. En Malaisie, en 2009, c'était un roulable, impraticable, il fallait s'arrêter, c'est clair.
Il fallait s'arrêter, mais il fallait aussi pas tergiverser, quoi, pour au moment de prendre la décision. Parce qu'on savait très bien qu'on était...
Oui, il fallait...
C'était autour de la mi-course, il me semble.
que... Oui, puis on connaît très bien la visibilité à
oui,
ce moment-là.
Oui, on sait bien que ouais, ça allait décliner et que...
Alors, petite question technique par rapport à la pluie, parce que c'est Thibault Larue, je crois, qui avait tweeté en expliquant que comme les voitures sont extrêmement proches du sol, effectivement, dès que t'as des couches d'eau sur la piste, ça devient de véritables savonnettes et que c'est pour ça qu'ils les arrêtent. Est-ce que techniquement parlant, il ne peut pas y avoir à un moment donné un truc où quand il se met à pleuvoir comme ça, tout le monde rentre au garage, on arrête les qualifs 10 minutes, toutes les écuries relèvent un peu
non,
le
ça sert à rien en fait parce que les pneus pluie non c'est pas ça c'est que les pneus pluie sont plus larges que les pneus secs donc automatiquement quand tu mets un train de pneus pluie la voiture elle remonte de 5 mm alors c'est pas énorme mais ça fait une différence 5 mm.
Ah oui quand même.
Les pneus secs font 66 cm de diamètre et les pneus pluie 67.
Si vous souhaitez nous poser une question au répondeur, n'oubliez pas, soit vous pouvez aller sur le site savf1.fr, c'est sur la droite, hein. Il y a un onglet pour enregistrer votre message. Si vous souhaitez nous envoyer un message classique par écrit, dans ce cas-là, l'adresse mail c'est répondeur@savf1.fr. On vous rappelle que pour les émissions après Grand Prix, il y a un concours. Cette semaine, il y a une clé USB 8Go Mercedes F1 en forme de clé à molette.
Ah oui.
Alors cette semaine, c'était une question un peu compliquée, un peu complexe. Cette année, c'est plus de ma faute. C'est Dino.
Et monsieur n'est pas là pour répondre de ses actes.
Alors d'ailleurs, je précise, quand vous répondez à la question, utilisez bien l'adresse concours@savf1.fr. Surtout, n'envoyez jamais vos réponses sur contact, parce que c'est Dino qui s'occupe de contact. Et le problème, c'est que si Dino voit votre question et qu'il sait qui a fait cette question, ben, on pourra pas la valider. Donc c'est bien concours@savf1.fr. Et donc, la question pour le prochain Grand Prix, écoutez bien, le premier pilote chinois à avoir roulé lors d'un week-end de Grand Prix a fait partie de plusieurs équipes de Formule 1. Quelles sont les couleurs communes aux drapeaux nationaux de ces différentes équipes? Par nationalité, on entend bien sûr parler de licence. C'est clair, les gars?
Il est tordu, Dino.
C'est tordu, mais oui, moi, en même temps, j'ai pas écouté le dernier, ça avait honte à moi, mais j'ai lu les commentaires. Donc, j'ai compris la question.
J'ai pas compris pourquoi il avait... Voilà, il l'a choisi celle-là, hein. Démerdez-vous.
Respectons son choix, voilà. On coupera au montage les critiques.
C'est toujours tordu, vos questions, de toute façon.
Non, celle-là, elle est quand même particulièrement compliquée. On arrive à la fin de cette émission, messieurs. On vous rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter. Pour les comptes Twitter, vous allez sur le site SAVF1, il y a tous nos comptes Twitter et il y a le hashtag SAVF1. Mais on est, comme d'habitude, sur iTunes, sur Podcast France, sur Pod Radio et partout dans le monde. D'ailleurs, on est partout.
On sera bientôt sur Canal+, d'ailleurs.
Peut-être.
Alors, Shinji, je voulais passer, avant de terminer l'émission, une petite annonce presque personnelle. Cette année, avec les accords de Nino, Shinji et des autres chroniqueurs, mettre en place une petite rubrique qui parleront en fait des métiers de l'ombre de la Formule 1. Et à ce titre, donc j'ai déjà une première personne que je vais très bientôt interviewer sur un des métiers de l'ombre de la Formule 1. Donc je passe une annonce sur le sujet. Toi qui écoutes le SAV, qui est dans les paddocks ou autour des paddocks et qui travaille dans le monde de la Formule 1, si tu es francophone, n'hésite pas à me contacter via un mail que Shinji vous donnera sur le site directement parce que je ne l'ai pas encore créé.
Oh, de toute façon, ça peut être par contact ou par le Twitter, hein, n'oublie pas, il y a aussi les Twitter sur le site SAVF1.
Donc que tu sois cuistot de l'écurie Williams, que tu sois repasseur de vêtements chez Sauber, que tu sois le kiné de Fernando Alonso, quel que soit ton métier, mais tant que c'est un métier en rapport avec le monde de la Formule 1, le cirque de la Formule 1, et qui est un métier que, en général, aucun média ne s'intéresse, tu nous intéresses, parce que le but sera de mettre en avant ce petit truc qui fait que, malgré tout, un week-end de Formule 1 ne serait plus un week-end de Formule 1 sans toi.
Eh, faut pas oublier que derrière deux pilotes, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont derrière et qui bossent.
N'est-ce pas, Sébastien Vettel?
Allez, on vous rappelle que comme d'habitude, la F1 sur Internet, c'est sur
Fanf1.com.
Fanf1.com.
Un jour, ils seront synchro.
Mais on a déjà été synchro une fois. Mais je sais pas si c'était sur Fanf1 ou sur le podcast.
Moi, note au monteur, essaye de mettre ça synchro, tu sais. Il coupe, il déplace, il fait ça synchro, et genre, on fait ouais, synchro et tout.
Et n'oubliez pas, le SAV de la F1, c'est...
La famille.
La famille gratuite des podcasts.
Du Ritz.
Alors, c'est la F1 gratuite sur Internet.
Aussi. Aussi, c'est la punchline 2013. Il a le droit de le dire. Allez, vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, ça sera de nouveau un mag. 3 semaines, c'est...
Sans
magie du calendrier. Allez, bye bye.
Salut.
Ciao, ciao.
À bientôt.